Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Bonjour.
Et je suis aussi avec Exerve.
Salut.
Ça va messieurs ?
Ça va,
bien,
ça va.
Très bien.
Tout se passe bien pour ce 30e épisode, vous êtes serein ?
Bah ça va, écoute, j'ai deux microphones en parallèle pour éviter les problèmes qu'on a eu ces dernières fois et je m'en excuse encore une fois, les soucis techniques, voilà, malheureusement on ne maîtrise pas, mais voilà. Je touche du bois, ça devrait bien se passer.
On a joué la sécurité cette fois-ci en espérant que ce soit la première prise qui soit la bonne cette fois-ci.
Ah, ça ferait 3 de suite sinon. Ça
commencerait à être une vraie malédiction, donc voilà, on va essayer de se passer de ça. On remercie pour commencer évidemment tous nos patriotes, les gens qui nous soutiennent sur notre page Patreon. On a eu un mail de la compta, je crois, ce matin, qui nous dit que nous sommes à peu près stables, mais voilà, la hiérarchie demande une augmentation pour Q1 2020. Donc voilà, on compte sur vous pour satisfaire les actionnaires.
Il faut que les dividendes montent, ouais.
Voilà, on compte sur vous pour nous soutenir.
D'ailleurs, il paraît que Régis, fils aimé, va rejoindre notre comité de direction après GameStop. Il nous rejoint.
Il paye 28 000 dollars par an juste pour qu'il donne son avis.
280 000.
Ah oui, pardon, excusez-moi, ouais. j'ai oublié
merci,
un zéro.
Merci, Oscar.
Alors donc voilà, merci à tous nos patriotes qui nous soutiennent. C'est vraiment grâce à vous qu'on peut faire cette émission, donc merci beaucoup. On remercie également Sœur d'édition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Mais pas que.
En ce moment, c'est quoi l'actu ? Je crois qu'il y a le livre sur Sekiro. Là, ça y est, c'est bon, il est sorti. Il y a le livre sur The Leftovers, donc la série de HBO.
Qui est sorti il y a quelques temps, ouais.
Effectivement. Et puis là, ils ont lancé un Kickstarter pour leur... pour trois bouquins, je crois qu'il y a le
Akira,
Berserk.
Ghibli, et, enfin, Miyazaki plutôt, et Berserk, ouais.
Mais bon, là, on est peut-être un peu moins concernés, mais voilà, si jamais vous avez des amis anglophones...
Pour tous les anglophones qui nous écoutent,
voilà. Hi guys, so, thank you, Third Edition. Donc voilà, si jamais vous avez des cousins outre-Atlantique ou outre-Manche, hein, c'est possible aussi, et ben voilà, vous pouvez financer ça, comme ça, les livres sortiront. Donc voilà, merci pour leur sponsoring.
Puis bon anniversaire, c'est leur 5 ans.
Oui, c'est vrai que c'est leur 5 ans.
Ouais, je viens de m'en souvenir à l'instant, là, voilà, ils fêtent leur 5e année, donc moi,
des
ça me fait plaisir.
Petits jeunes dans le game. Voilà.
Ils sont 5e année, ils ont embauché une 5e personne, tout se passe bien pour eux. Hein. Vraiment, je suis super content de faire des choses avec eux.
Ouh là là, ça tease. Et puis nous, on va pouvoir commencer à parler de A Plague Tale Innocence. On est encore une fois en plein dans l'actualité, hein, puisque hier soir, c'était les Pégases. Le jeu s'est fait couronner de succès pour cette cérémonie. Alors les Pégases, hein, pour rappel, c'est les Césars du jeu vidéo. En tout cas, c'est comme ça qui se présente.
Ouais. Et voilà, alors je suis pas sûr que cette année t'aies très envie de te comparer
au César.
César.
Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 autres problématiques.
Les Oscars, du coup.
Bah non, parce que c'est célèbre quand même le jeu vidéo français, je crois.
Oui, c'est vraiment tourné jeu vidéo français pour la plupart des prix. C'est le SNJV qui organise ça, donc le Syndicat National du Jeu Vidéo. L'idée, c'était vraiment de enfin avoir une espèce de cérémonie unique. Il y a eu les Tilts, il y a eu plein de tentatives, les Ping Awards, etc. Ouais. Là, ils veulent un truc ferme, ils font voter des gens, j'en fais partie, qui bossent dans le milieu, donc on est je sais plus combien de centaines à voter pour chaque année. Voilà, pour une première édition, c'est Plague Tale qui a gagné quand même 6 prix sur combien, 13 en tout.
Ouais, quelque chose, ouais, de mémoire,
donc,
c'est
ça. Encore
ouais.
Une fois, voilà, je le souligne, Fin du Game est non seulement prédit l'avenir, mais le modèle à son image. Ça, ouais. Je pense d'ailleurs qu'Asobo peuvent nous remercier, simplement, parce que finalement, si on n'avait pas parlé de Plague Tale, est-ce qu'ils auraient
reçu... Si on n'avait pas prévu d'en parler...
Et si on n'avait pas eu la couillette avec le dernier épisode et qu'on avait dû décaler, on n'aurait pas eu.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, le destin, encore une fois, s'en est mêlé. Mais voilà, on va pouvoir commencer une fois que Maxime nous aura mis une petite musique du compositeur de Plague Tale.
Olivier de Rivière.
Voilà, on l'embrasse. Je pense qu'on va commencer par ça. Et puis voilà, on est parti pour un nouvel épisode. Alors, A Plague Tale Innocence, hein, c'est le titre complet du jeu qui est sorti le 14 mai 2019. C'est sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC. C'est un jeu qui est édité par Focus Home Interactive, développé par Asobo. studio bordelais, qui, paradoxalement, alors peut-être que là ça va changer avec ce qui s'est passé hier soir, mais c'est un studio qui n'est pas très connu, alors qu'il est non seulement assez gros, mais en plus c'est pas un studio qui sort comme ça de nulle part depuis quelques années, quoi.
Ouais, puisqu'en fait ça fait partie des vieux studios indépendants français. Il me semble même qu'en termes d'effectifs, ça doit être le plus gros, puisqu'ils sont un peu plus de 200, si je dis pas de bêtises, en termes d'effectifs. Ils sont là depuis 2002, et ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont jamais vraiment fait de jeu à eux, entre guillemets. En fait, c'est un studio alors j'allais dire de mercenaires, mais c'est pas forcément le terme exact, mais de commandes. En fait, ils se sont fait connaître pour avoir fait des jeux avec Disney, pour Pixar, avec à l'époque, donc ils avaient fait les jeux Ratatouille, ils avaient fait des jeux comme ça sur PS2. C'est ce qui leur a permis de se faire un petit peu connaître. Ils ont beaucoup bossé aussi avec Microsoft, parce qu'ils ont énormément bossé sur le HoloLens, c'est leur fameux casque là de réalité augmentée. Ils ont fait des démos, ils ont bossé avec eux, et là on l'a appris il y a quelques mois, donc un peu après la sortie Plague Tale. En fait, c'est eux qui ont décroché la timbale, parce que ils bossent sur le prochain Flight Simulator, donc c'est quand même pas la moitié d'un jeu.
Dont ils ont montré un trailer pendant les Pegasus d'ailleurs.
Il y en a eu un qui a été montré. Ouais. J'ai pas regardé la cérémonie, je me suis dit, j'avais du montage à faire et j'ai pas regardé la cérémonie, donc j'ai regardé deux trois extraits ce matin seulement. Et ouais, du coup tu te dis, bon, effectivement, faire un truc comme Flight Simulator, surtout avec la technologie qu'il y a derrière, c'est pas évident. Mais en fait c'est ça, c'est que c'est un studio plutôt de techos, hein. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, ils sont très bons là-dedans. Et en fait ils ont eu envie de faire un jeu à eux, vraiment avec leur propre histoire, leur propre identité, et ça a donné...
Il y avait pas déjà
Plague
eu Fuel?
Oui, il y avait eu Fuel, ouais, qui était sorti.
C'était pas du tout le même délire.
Non, c'était un open world avec des buggy et des...
qui mettaient du turbo et des trucs comme
Ouais, c'était pas tout à fait le... T'avais pas, tu vois, entre les deux, tu dis, bon, c'est pas tout à fait la même chose. Malgré tout, c'était quand même leur premier jeu à eux, mais je pense qu'ils avaient vraiment une espèce d'envie de mettre en avant comme ça ce qu'ils sont, parce que c'est vrai que finalement tu te dis, Asobo, en fait, on en a jamais entendu parler, tu vois. Ils ont une sorte de fierté de se dire, les gars, ça fait presque 20 ans qu'on est là, on veut nous aussi exister dans le paysage vidéoludique, on veut que Hugo prononce notre nom et paysage vidéoludique dans la même phrase.
Oui, je pense effectivement, ça fait plusieurs années que ça leur trotte dans la tête.
Ah ils attendent que ça,
hein. Évidemment, bien sûr. Et donc je le disais juste avant, c'est un jeu qui est édité par Focus Home Interactive, et là aussi c'est assez intéressant, parce que finalement ces deux entités, Asobo et Focus, qui ont des ambitions qui ont un petit peu convergé. Alors Focus, eux, je crois que ça a été fondé en 2002, il me semble.
96.
Ah oui, c'est même plus vieux. Pardon,
Asobo 2002 et Focus était déjà là. Ouais.
Ils étaient surtout sur PC. On peut éventuellement les connaître pour c'était Pro Cycling Manager et les trucs de vélo. Il y a Trackmania aussi.
Ils s'occupaient de Nadeo avant qu'Ubisoft récupère le bébé, donc ils faisaient ça, ils faisaient les jeux aussi, tu sais, de Skipper. Ils faisaient plein de simulations en fait, il y avait beaucoup de jeux comme ça. Et
d'ailleurs, c'est vraiment ce qui va vraiment. Ils vont trouver leur vache à lait avec un simulateur, le fameux Farming Simulator, qui est vraiment, je pense, aujourd'hui le produit qui leur permet de vraiment financer tout le reste de l'activité. Hein. C'est ça qu'on appelle une vache à lait en marketing. Hein. C'est vraiment un produit qui coûte pas très cher, mais en tout cas qui génère énormément de revenus et qui permet de soutenir le reste de l'activité de l'entreprise. Et du coup, en fait, à la moitié des années 2010, alors je sais plus si c'est en 2014 ou 2015,
je sais plus. Exactement,
ils rentrent en bourse, et je pense qu'à ce moment-là, ils se sont mis en tête ils ont mis en place une espèce de nouvelle stratégie qui est de s'attaquer vraiment au marché du double A. Alors qu'est-ce que c'est le double A? Ce sont des jeux en fait dont le budget se situe entre 5 millions et 20 millions, on va dire, hein. C'est pas forcément fixe, hein, les barrières.
Ça évolue au fil et à mesure des époques, évidemment.
Effectivement, mais voilà, quand on parle de triple A, c'est souvent des jeux qui dépassent quand même ce budget-là, et il y a une autre catégorie de jeux qui est un peu plus restreinte, avec des budgets un peu plus limités, même si c'est déjà quand même des grosses sommes qui sont engagées. Et voilà, Focus Home va se mettre en tête de lancer des projets de cette envergure, et vraiment, je pense qu'on a vu le résultat en 2019. Il y avait un événement, moi je m'en souviens, parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment les intégrer dans la réflexion, avec leur What's Next, où ils présentaient donc The Surge 2. Il y avait aussi Gridfall, hein, le jeu de Spiders, et puis il y avait aussi A Plague Tale Innocence. L'année d'avant, il y avait eu Vampire aussi, qui était fait avec Dontnod, qui avait aussi bien marché et qui était vraiment double A comme ça.
Hein. Ils ont annoncé 1 million de ventes, je crois, Vampire. Ils avaient annoncé assez rapidement, peut-être en moins de 6 mois, quelque chose comme 400 ou 500 000. Et ils avaient dit que, de mémoire à l'époque, ils avaient dit 400-500 000, ils sont rentables et un petit peu plus que dans leurs frais, quoi. Et 1 million, c'est considéré comme un succès, et ben voilà, ils l'ont fait en à peu près un an. Ouais.
Et du coup, bah moi j'y étais en fait à cet événement-là, j'avais été invité, donc j'avais pu découvrir à l'époque donc Plague Tale, et bon, c'était surtout au départ pour Surge 2 que j'y allais, parce que bah, ouais, comme c'est un Souls-like, moi j'étais vraiment super intéressé, je suis tombé complètement sous le charme de Plague Tale avec la petite démo que j'avais pu découvrir, et ils montraient vraiment tous leurs jeux. Alors ils ont fait un énorme teasing aussi, parce qu'ils bossent sur un gros jeu avec Dontnod, ils ont apparemment récupéré tout un tas de partenariats avec Game Workshop, ils vont continuer de faire des jeux Warhammer, etc. Tu sens que voilà, effectivement, ils sont en train de mettre en place pas mal de billes pour créer des gros jeux, ou en tout cas des jeux d'envergure, mais qui n'ont pas encore vraiment le scope d'un gros AAA. Et bah, c'est assez intéressant comme placement, parce que ce segment-là, en fait, du marché AA, c'est pas quelque chose. Ça a plus ou moins toujours existé.
Ouais,
mais sûr, c'est vrai que bah, je trouve que ces dernières années, comme ça, ce genre de budget, bah, dans un contexte où on dit tout le temps ça coûte beaucoup trop cher, ça prend beaucoup trop de risques, ils arrivent à trouver une espèce de compromis entre des ambitions en termes ludiques, en termes de production, en termes de visuel, etc., qui sont quand même conséquentes, mais avec des budgets qui sont bah, beaucoup moins dangereux pour les actionnaires et pour les gens qui financent, en se disant bah, on va pas lâcher 200 millions dans un jeu, on va en lâcher 10 fois moins et on verra bien ce que ça donne.
Et oui, et là, ils sont vraiment en train de se constituer une espèce de portefeuille, comme ça, de licences, de noms, et qui s'installe au fur et à mesure. The Surge 2, voilà, c'était, voilà, c'est le deuxième épisode, ça commence à s'installer. J'imagine que ça va continuer, tu vois, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, ou en tout cas, ils font des jeux un peu similaires. Donc voilà, il y a vraiment cette envie, voilà, ils ont un peu la dalle, donc ils s'installent sur le marché.
Oui, parce que c'est vraiment beaucoup de jeux, hein. Enfin, on disait juste, l'année dernière, il y avait aussi eu Call of Cthulhu, je crois qu'il y a. Enfin,
oui, non, 2018, c'était.
Oui, l'année d'avant, je veux dire que.
Oui, ouais, puis ils ont toujours des jeux, effectivement, voilà, les licences avec les Cycling Man, les trucs comme ça qui ressortent.
Oui, bien sûr, là aussi, il y a toujours Farming Simulator qui moissonne de l'argent.
Ils éditent des jeux avec des budgets beaucoup plus modestes, limite jeu indé en termes de taille. Là, typiquement, en ce moment, ils ont deux jeux qui sont. Enfin, il y avait Overside qui est en bêta en ce moment, là, qui est un tactical qui ressemble un petit peu à XCOM. En Early Access, là, le jeu est dispo depuis quelques jours. Il y a Curse of the Dead God.
Un roguelike.
Ouais, un roguelike un peu, voilà, avec un petit délire un peu avec les Aztèques. Donc, ils font quand même. Voilà, ils ont quand même un gros spectre de jeux.
Voilà, ils se placent un peu partout et ouais, on sent que voilà, ils ont vraiment envie de s'installer.
Ils ont la dalle, je pense que c'est la bonne expression. Hein, parce que tu sens que vraiment ils ont envie, bah, d'une, parce que bah, y a aussi l'urgence, pas l'urgence, mais on va dire la pression du fait d'exister comme ça aujourd'hui sur la bourse, bah, ça vient aussi avec des contraintes. Mais parvenir à expliquer aux investisseurs que leur budget et leur envie, c'est de faire comme ça des jeux de moyenne gamme, ce qui n'est pas négatif en soi, je trouve que c'est assez intéressant et bon, bah, à mon avis, ça va leur réussir. On verra. En tout cas, on va leur souhaiter de réussir dans les années à venir.
Bah, en tout cas, avec A Plague Tale, ça a plutôt bien marché. Hein. C'est un jeu qui a bien fonctionné, même sur le plan critique. Hein. Je crois qu'on est à plus de 80 sur Metacritic. Ouais. Donc c'est vrai que est-ce que ça va devenir vraiment le fer de lance de Focus Home ? Je pense que le jeu va être important pour leur image, en tout cas, vraiment, de s'associer à certaines licences comme ça. Ça va être important pour eux.
Cette note, ces fameux plus de 80 sur Metacritic, c'est assez rare pour des double A, quand même, puisque justement, ils ont une tendance à être comparés au triple A, donc c'est assez, assez important pour être noté.
Ouais, c'est vrai que c'est assez difficile en fait, ça paraît tout bête d'expliquer comme ça, mais il y a quand même des exigences. La façon dont on teste les jeux est toujours énormément nourri dans ce qu'on va appeler le bilan technique, tu t'attends à certaines choses, tu vois. C'est vrai que c'est, même s'il peut y avoir un jeu comme Céleste, tu sais, du pixel art, qui va pouvoir avoir des scores incroyables, quand c'est des jeux en 3D et tout, on s'attend quand même à un certain niveau de production. Et là, Plague Tale, bah, en fait, c'est un peu surpris son monde. Moi, je sais que la première fois que j'ai lancé le jeu, je me suis dit, putain, mais combien ils sont, c'est quoi ce jeu, d'où ça sort, comment ils ont réussi à avoir un rendu pareil. Et bah, du coup, c'est vrai que là, pour le coup, je pense qu'ils sont, ils seront très contents du résultat.
Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais ils étaient à leur max une quarantaine, c'est ça, quand ils bossaient sur.
Ouais, apparemment, c'est ça, ils étaient une petite quarantaine vraiment au max. Donc, pour un studio qui a 5 fois plus de monde, bah, tu te dis, ok. En fait, a priori, je pense que ça a été une espèce d'expérience, quoi. Ils se sont dit, on va essayer de faire quelque chose, on a envie de montrer quelque chose, mais on va le faire bien. Faut savoir que c'est un studio, ça, c'est relativement rare pour être signalé, qui a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'expérience. On parle souvent du turnover dans le JV. Là, il y a quand même pas mal de monde qui ont 6, 7, 10 ans d'expérience. Ils ont sorti plusieurs jeux, donc ils ont quand même. Ils ont des vétérans, ils ont des seniors.
L'expérience et puis l'expérience de travailler ensemble aussi. Voilà, c'est un studio qui a son corps.
Et donc forcément, ça fonctionne bien et le résultat, du coup, il est un peu à la hauteur, quoi. Parce que c'est vrai que si tu te disais c'était juste un studio qui avait été constitué pour l'occasion, je pense pas qu'on aurait eu un jeu aussi abouti.
Non, clairement. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'on peut le dire déjà, vraiment, le résultat visuel et technique, je pense que tous les trois, on a été très impressionnés par ça, quoi. Mais comme d'habitude, on va rentrer dans le jeu par son histoire. Hein. Là, c'est vraiment un jeu narratif. collaboratif, donc il y a quand même une grosse emphase là-dessus. Est-ce que je pars en mode Stéphane Bern, hein, sachant que nous sommes en historique, sommes en 1348.
Avec la noblesse française.
La noblesse, évidemment, la jeune Amicia de Rune, fille de Robert et Béatrice de Rune, des nobles qui dominent une petite parcelle de la région d'Aquitaine.
Je ne vais pas continuer comme ça, sinon j'ai vraiment fatigué.
Mais le pire, c'est qu'il est capable de le faire dans tout l'épisode, hein, parce que un jour, on fera, tu vois, quand on fera les DVD ou les Blu-ray des 10 ans ou des trucs comme ça, on aura les nombreuses imitations de Hugo, parce qu'il est très très fort. Hein,
Non, mais bon,
fin du game, un incroyable talent.
Lol. On revient donc à Amicia de Rune, hein, c'est vraiment le personnage qu'on va contrôler, qui est une jeune fille de 15 ans, qui est fille de noble, qui vit sa meilleure vie de châtelaine, hein, tout simplement, parce qu'elle va à la chasse, elle monte à cheval, elle fait des petits trucs avec sa fronde, avec son daron, elle vit la belle vie. Hein,
ouais, elle n'est pas du tout éduquée dans un délire de jeune fille, tu vois, cloîtrée, etc.
C'est pas l'image de la princesse.
Ouais, c'est pas du tout l'image de la princesse.
De la jeune duchesse qui est avec son corset qui lui sert bien la taille, c'est vraiment pas
juste
ça.
Destiné à être marié à un cousin dans un autre pays ou une autre région.
Mais il faut dire aussi que Robert de Rune, c'est pas non plus le gros noble, hein, tu vois, c'est pas le roi de France, ni quoi que ce soit. Je veux dire, c'est un propriétaire terrien, même son château, entre guillemets, c'est une grosse baraque, quoi. Tu vois, c'est vraiment, c'est pas un vrai château, c'est pas Fontainebleau, des trucs comme ça, quoi. Ouais. De toute façon, c'est pas à la même époque non plus. Je sais pas si on a dit la date, c'est quoi, c'est 14e
1348.
Ah oui, voilà, c'est ça, tu disais.
Nous sommes à cette époque-là.
Donc on est en pleine guerre de 100 ans.
Oui,
chef. Ça fait 11 ans qu'elle a commencé.
Merci pour les dates. Alors nous vous télécharger la petite frise chronologique sur notre Discord. Non, ce n'est pas vrai. Hein. Mais elle n'est pas fille unique. Hein. Elle a aussi son frère Hugo, joli prénom, qui était vraisemblablement déjà populaire à cette époque, comme c'est le cas aujourd'hui. Hugo, lui, qui ne vit pas du tout la même vie parce qu'il est atteint d'une mystérieuse maladie et il vit vraiment confiné, en quarantaine, justement, le château des Deux Runes.
Et lui, il a quoi? Il a 6 ans, c'est ça?
Oui, il a 6 ans. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment sa mère, donc Béatrice, qui s'occupe de lui, qui lui apprend la vie via des livres et tout, parce qu'il ne sort vraiment pas de chez lui. Et elle, Béatrice, elle est alchimiste aussi, accessoirement. Donc on a quand même une famille assez moderne, hein, vraiment, pour 1348. Alors je ne sais pas s'il y avait des femmes alchimistes, je ne sais pas s'il y avait des jeunes filles duchesses qui faisaient de la chasse, mais voilà, c'est ce qui se passe là.
En tout cas, ça fonctionne bien, tu vois, c'est assez crédible. Hein, tu peux comprendre l'intérêt de la mère pour les plantes, etc., parce qu'elle essaye de soigner son fils. Donc tu vois, il y a des liens qui se créent tout de suite en disant, ok, c'est pour ça qu'elle fait ça. Et il n'y a pas des choses qui tombent comme un cheveu sur la soupe, quoi, au niveau des personnages.
Alors, on ne sait pas si ça, c'était possible à l'époque. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, il y avait bien la grosse peste noire qui a commencé en 47, il me semble.
Ah, je crois que c'est la même année. Moi, j'avais vu 48.
Ouais, moi, j'ai vu 47, voilà, 52. Bref, la peste noire, hein, on le rappelle, c'était pendant 5 ans, hein, cette période, il me semble. Et alors, moi, j'ai revu les chiffres, j'ai complètement été... Enfin, c'est quand même 30 à 50% de l'Europe qui a été tout simplement décimée. Hein, voilà, donc... quand même, voilà, je sais que c'est un petit peu dans l'actualité, mais voilà, c'était quand même autrement plus sérieux, assez terrible. Donc ça, c'est vraiment la menace qui va peser sur le jeu. Hein. La peste va avoir une grosse importance, hein, c'est pas pour rien que ça s'appelle A Plague Tale. Mais il y a une deuxième menace qui va peser sur les deux runes, c'est l'Inquisition, puisqu'ils s'intéressent justement à la mystérieuse maladie de Hugo. Et le début du jeu va s'ouvrir tout simplement sur une attaque chez les deux runes. Il y a une espèce de raid mené par Sir Nicolas, qui est une sorte de Dark Vador moyenâgeux.
Ouais, par la suite, on l'appellera Dark Vador.
Voilà, par la suite, on l'appellera Dark Nicolas. Et qui va débarquer chez les deux runes pour essayer de récupérer Hugo. Hein, je crois que c'est
ça. Ouais, ils veulent vraiment le kidnapper. Hein, c'est vraiment l'objectif. Hein.
Exactement. Et le père va perdre la vie dans l'opération. Il va se faire schlasser, comme on dit dans la street. Et on va croire aussi que la mère va aussi y passer. Alors,
on le saura plus tard, mais en fait,
je vous rappelle, hein, que fin du game, que fin du game spoil les jeux, donc voilà.
J'adore, tu sais, quand on est à 40 minutes d'émission et qu'on dit aux gens, et au fait, on va vous raconter.
En fait, on spoil, vous savez. Et donc, on apprendra que la mère est toujours vivante.
Dans la tradition du cinéma, on va, quand elle meurt, entre guillemets, on voit juste genre une lame traverser une porte.
On voit pas que c'est elle.
On suppose que c'est elle. Et en fait.
Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois.
Exactement. Mais en tout cas, c'est ce que croient Amicia et Hugo. Ils s'enfuient du château de Rune et ils ont donc deux problèmes. Non seulement fuir l'Inquisition, mais aussi contenir la maladie de Hugo, parce que s'il est confiné, c'est pour que sa mère puisse s'en occuper, et là il va sortir vraiment vraiment à l'air libre, et en fait ils risquent à tout moment de subir des espèces de crises un peu respiratoires comme ça, on sait pas trop vraiment ce que c'est, mais
ouais, tu sais pas trop au début,
tu
pourrais dire peut-être qu'il fait des crises d'épilepsie, ouais, peut-être qu'il a des crises, tu vois, on sait pas exactement, d'une maladie chronique, et puis ça va devenir évidemment de plus en plus clair au fur et à mesure du jeu, mais bah, la première chose qu'elle doit faire, c'est sa mère qui lui a dit va chercher Laurentius, un alchimiste qui l'aidait a priori, ouais, dans ses recherches pour trouver un médicament.
Et donc on va se rendre chez ce fameux Laurentius. Malheureusement, Laurentius, bah, il s'est fait grignoter les jambes par les rats.
Je crois qu'il a la peste.
Il a la peste,
ouais,
tout simplement.
Ouais, ouais, bah, il est malade, quoi.
Oui, c'est façon, ça.
Bon, en même temps, comme 50% de la population à l'époque, donc c'est 1 ouais, sur 2. Hein, voilà,
ils étaient deux dans la maison, il y avait Lucas et lui, pas de bol.
Et voilà. Et donc on va par contre rejoindre Lucas, qui est l'apprenti de Laurentius, et qui a bien sûr, dans ses jeunes années, eu le temps de recevoir tout le savoir de son maître.
Il
était
quand même... sur le point de terminer son stage d'alchimie.
Il était en plein rapport de stage, mais on arrive à le sauver, parce que là, la maison aussi, ouais, se fait complètement submergée par, ouais, les rats. On va devoir, on le sauve, et il va nous accompagner tout au long de l'aventure, jusqu'à notamment le château d'Ombrage, qui est aussi un endroit pour lequel ils veulent... Il y a un laboratoire, hein, dedans, hein, je crois que c'est ça qu'ils cherchent.
Ouais, en fait, c'est un vieux château. Alors ça, c'est lié à l'histoire, on le comprend un peu plus tard dans le jeu. En gros, le Plague Tale, ça remonte aussi à l'époque romaine, avec la peste de Justinien, qui était en 540, je crois,
ah oui,
avant
ça,
Jésus-Christ.
Hugo, en fait, ouais, sa maladie, c'est plutôt une maladie génétique qui se, ouais, transmet, voilà, d'élu en élu, comme ça.
Et qui descend, du coup, de cette, non, époque-là. Et le château d'Ombrage avait été fabriqué à l'époque pour contenir, en gros, l'invasion des rats à cette période-là, quoi. Donc, c'est un château en ruine, mais à l'intérieur, il y a tout un tas de dispositifs qui ont été... strictement pensé pour les rats, ça tombe bien,
ouais,
et du coup il y a tout un tas de puzzles et tout, et ils se cachent là en fait. Alors il n'y a pas que eux, parce qu'à ce moment là ils ont trouvé aussi deux gamins,
ouais, Mélie et Arthur, hein, c'est,
ouais,
ça,
voilà,
qui sont
trouvent,
un petit
sont des voleurs,
duo
frères et
de
sœurs,
voleurs,
voilà.
Ouais, ouais, bah de toute façon c'est des gamins qui ont été jetés sur les rues, ouais, sur les routes plutôt, avec la peste. On les retrouve juste après le champ de bataille, je crois,
ouais,
c'est à ce moment là qu'on,
ouais,
les croise la première,
ouais,
fois,
ça, ouais.
Et à partir de là, bah, ça part un peu en couille.
Oui, c'est ça, ça part un peu en cacahuète, parce que donc Amicia va pouvoir trouver le fameux élixir, un espèce de remède que cherche, que Lucas cherche à recréer pour apaiser.
Ouais. Ah oui, c'est ça, elle a besoin du bouquin.
Elle a besoin du bouquin, voilà, ouais, pour trouver la recette, hein, 100 grammes de farine, un peu de beurre, et c'est
contre la macula, qui est
contre
le nom
la
de la
macula,
maladie.
Effectivement,
oui,
c'est
on
le
commence
nom.
À le voir. C'est vrai que Lucas, c'est le petit qui lâche des mots latins.
Oui,
comme
c'est,
ça,
le,
tu vois,
c'est le nerd, il a fait, ouais, latin en cinquième, et voilà, il connaît deux trois mots. Il connaît ses déclinaisons. Et en fait, en allant chercher cet élixir, Amicia va apprendre que sa mère n'est pas morte, puisqu'elle est retenue prisonnière par l'Inquisition. Elle va l'apprendre via Roderick, hein, c'est ça, qui est fils du forgeron. Il ne s'appelle, ouais, pas Hakim, mais il est fils de forgeron.
Est-ce que tu peux citer un autre fils de forgeron?
Non, je connais
pas
Hakim.
Il y a Hakim et Roderick.
Ah bah, dans l'histoire française,
c'est
il y a un peu de fils de forgeron.
Voilà, c'est la culture populaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, avec ce fameux Roderick, elle va revenir au château d'Ombrage. Ils vont donner l'élixir à Hugo. Donc, Hugo, finalement, ça va pas lui apaiser vraiment sa maladie, ça va lui permettre d'atteindre un espèce de nouveau stade où il va mieux pouvoir la contrôler, hein, c'est niveau Saiyan 2. Et par contre, en fait, Amicia cache l'information à Hugo, elle veut pas lui dire que sa mère est vivante, mais Hugo va l'entendre et du coup, bah, il part sur un coup de tête.
Il fait précisément ce que Amicia voulait pas qu'il,
voilà,
fasse.
Exactement,
en fait,
pour pas qu'il aille la chercher, mais du coup, il va la chercher et il se fait capturer. Hein. Est-ce que c'est pendant ce moment-là qu'on le contrôle, hein? Je crois qu'on va contrôler Hugo justement.
C'est juste après.
Après sa capture.
Ouais.
Coup,
c'est après sa capture, oui.
Ouais, en fait, quand il se fait capturer, il y a Amicia qui rêve sa capture, il y a toute la séquence de rêve où elle retraverse un peu les différentes zones du jeu. Ensuite il y a vraiment gros fondu en noir, et là c'est le petit twist du, en fait on contrôle Hugo, il est au milieu de l'Inquisition et il va aller chercher sa mère. Et
il va aller chercher sa mère, et au moment où il retrouve sa mère, elle lui apprend, bah, vraiment le nouveau pouvoir qui est là, vraiment, en fait, de contrôler les rats, et c'était justement ça, sa mystérieuse maladie, cette espèce de pouvoir génétique dont il a hérité et qui lui permet de contrôler les rats, et c'est ce qui a permis aux précédentes grandes épidémies de peste, en tout cas dans l'univers du jeu, d'être maîtrisé par les hommes. Et du coup, bah, Amicia et toute la petite équipe, ils sont restés au château d'Ombrage, mais Hugo malheureusement se fait recapturer par l'Inquisition, et cette fois l'Inquisition, bah, veut se servir du pouvoir d'Hugo, et on va tout de suite s'en rendre compte puisqu'ils débarquent au château d'Ombrage avec le Dark Vador, hein. Le Dark Vador tient la main d'Hugo et ils attaquent littéralement avec toute une nuée de rats, ils attaquent le château d'Ombrage, mais finalement l'amour fraternel triomphe et Hugo se remet du côté d'Amicia. On arrive à tuer Dark Vador et puis fort de cette nouvelle puissance de frappe à base de rongeurs, eh bien on va s'attaquer
à Palpatine,
grand méchant du jeu qui est quand même un peu Palpatine effectivement, qui est c'est le grand inquisiteur, vraisemblablement j'imagine qu'il a envie d'être pape à la place du pape.
Oui, tu sens qu'il avait derrière un petit peu
une séquence en fait où il y a justement un cardinal qui vient essayer de le remettre à sa place et Vitalis. Il joue en mode non mais moi je suis un rebelle, je vais la jouer freelance, tu vas voir, ça va bien se passer.
Je sais plus exactement ce qu'il recherche, il y a peut-être même un délire peut-être de vie éternelle, hein, de tout comme ça à base d'élixir, je sais plus exactement.
Il s'appelle Vitalis déjà.
En fait il veut fabriquer donc les rats blancs là pour combattre les rats et utiliser le pouvoir de en fait il s'injecte avec du sang du goût, c'est bien crado, pour justement lui aussi avoir ce pouvoir de contrôler des rats et d'être une espèce de sauveur. En fait, tu vois, il est dans un délire prophétique à base de je vais sauver l'humanité et du coup, ce faisant, une fois qu'ils seront super sympas, tu vois, ils seront contents que je les ai sauvés, donc ils vont me faire roi de l'humonde, voilà.
Et tout ça, ça va bien un peu avec le délire de l'alchimie, où à l'époque, on cherchait justement à créer un peu des élixirs à base parfois d'or ou de choses comme ça.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'alchimie comme ça est vraiment...
Ouais, c'est un petit fil rouge, tu vois.
Parce que la mère était alchimiste, le jeune Lucas est alchimiste, il y a vraiment des moments où on se rend aussi dans des espèces de bâtiments où, tu sais, il va dire, ah oui, c'est les symboles alchimiques, tu sais, avec les têtes de lion, les machins et tout, donc c'est full metal alchimie, c'est trop bien. Donc c'est vrai qu'il y a quand même cette espèce de toile de fond et qui permet aussi d'ancrer un petit peu le jeu dans une culture un petit peu européenne comme ça, puisque l'alchimie c'est vraiment
ça permet d'expliquer des éléments de gameplay, enfin c'est vraiment un truc qui est utilisé tout au long du jeu pour expliquer la progression en tout cas de l'histoire, et effectivement c'est comme ça qu'on peut c'est grâce à la chimie qu'on fait les fameuses pierres qui enflamment, qui vont permettre de faire de la lumière, etc., qui vont attirer les rats à un endroit. Ça explique beaucoup de choses.
C'est le craft, quoi. C'est vraiment le craft du jeu, c'est l'alchimie. Et du coup, on va quand même terminer l'histoire. Il y a quand même une vraie confrontation avec l'archevêque, le grand inquisiteur. Excusez-moi pour les statues, monseigneur.
Mother of Dragon.
Et là, vraiment, on termine sur une espèce de climax où vraiment là, le Vitalis il contrôle aussi des rats. Il fait des espèces de tornades de rats blancs. Nous aussi, de notre côté, il y a Hugo qui est planqué qui fait aussi des tornades de rats. Et ces espèces de. Ils se battent à coups de gourdins de rats géants comme ça.
Bataille de Twister.
Ouais, c'est vrai que le combat final, je m'attendais pas à ce que ça parte dans cette direction-là. Tu vois, tu sentais que le jeu tout du long, en fait, il allait dans un délire fantastique et tu sentais qu'à un moment donné, ça allait vraiment vriller. Mais je m'attendais pas à ce que ça parte dans ce délire-là. Et au final, le combat, il fonctionne bien, tu vois.
Oui, le combat, il y a une mise en scène qui est quand même assez impressionnante.
Ils font
surtout
des
dans
énormes colonnes de rats qui s'abattent comme ça, tu vois, comme des mains géantes.
Ouais. C'est un des moments, pourquoi pas. Tu vois, on en reparlera peut-être à un moment.
Non, mais en plus, enfin voilà, la mise en scène fonctionne pas mal. Il y a vraiment cette espèce de grande cathédrale qui est toute recouverte de cette espèce de matière un peu dégueulasse des rats. Donc vraiment à la fin, il y a vraiment cette espèce de grand climax. Et puis il y a quand même un petit épilogue. Une fois évidemment qu'Amicia et Hugo ont réglé le problème parce que les gentils gagnent. Est-ce qu'il meurt le Vitalis? Je me souviens même plus. Tiens, tu vois, s'il meurt.
C'est le genre de truc, j'ai envie de dire oui, mais ce serait pas étonnant que.
Il me semble qu'il meurt, parce qu'il se fait bouffer par les rats ou un truc du genre classique, tu vois.
On va dire que oui.
Bon, c'est un méchant. Oui. Et s'il revient, franchement, on s'y attendait pas.
Par contre, le Dark Vador, lui, il tombe dans un truc, il me semble.
Ah, j'ai pas fait. Je m'en souviens.
Il tombe dans un truc. Ah, il tombe pas dans un espèce de fossé.
Ah
mais
non,
un truc
Nicolas,
il
se fait.
Ah
bah oui, tu le crames. Tu sais, tu le fais brûler
aussi.
Et tu jettes les rats.
Ouais. Bon, c'est bien un jeu français, ça. On crame tout. C'est la culture française.
Non, mais en fait, Nicolas, le combat contre lui, ce qu'il fait, c'est qu'à un moment, il enflamme son épée et après, il s'enflamme complètement pour empêcher les rats. Et il est dans une dernière marche, parce que de toute façon, évidemment, au bout d'un moment, il va perdre. Les flammes, c'est plus fort que la chair.
On le reverra brûler.
Oui, moi, je le vois bien revenir avec la moitié du visage cramé. Franchement, le Kylo Ren, là, je pense qu'on est pas mal.
Toutes ces comparaisons avec Star Wars.
Fin du game, le podcast pop.
Toutes les références, les meilleures références geek avec fin du game. Et donc, on termine sur un petit épilogue. Hein. Vraisemblablement, après cette espèce de grande confrontation, la peste s'est un petit peu calmée. On est dans une petite foire et ça y est, c'est de nouveau le calme. Le calme est revenu sur les terres de l'Aquitaine. Et il y a une petite foire, ils mangent des pommes et tout va bien dans le meilleur des mondes. En tout cas,
ils se font quand même jeter, hein, parce que justement, il y a une espèce d'endroit où ils veulent aller jouer et les gens les reconnaissent, tu vois, parce qu'ils savent que c'est les deux runes et surtout ils étaient recherchés, donc il y avait des dessins d'eux partout. partout. Et ils leur disent quand même, genre, vous rentrez pas, vous avez des baskets, quoi. Donc en fait, à la fin, ils se barrent
vers
le couchant,
voilà.
Enfin, vers l'horizon, en tout cas, dans un petit truc. Il y a Lucas, il y a la mère et.
Mais c'est la fin de l'innocence.
Ouais.
C'était donc ça, hein,
c'est pour ça ?
Oui, c'est ça, Benoît. Tu n'avais pas compris. Ah !
Incroyable.
Il faut toujours t'expliquer les jeux aussi, c'est terrible. Alors, voilà, une fois qu'on a passé l'histoire, je pense que vraiment, la première chose qui saute vraiment aux yeux quand on commence le jeu, c'est vraiment l'affiliation avec The Last of Us. Hein. Je pense que c'est, on va pas pouvoir ne pas le citer, parce que c'est une référence qui est évidente pour l'équipe d'Asobo, et vraiment à toutes les strates du jeu, quoi.
Ouais, on va retrouver, en fait, déjà, dès le départ, on en a déjà parlé, hein, de ce concept de 3C avec la caméra, les contrôles, les personnages, et c'est vrai que on est quasiment dans la même configuration par rapport à The Last of Us, rien que le feeling du déplacement d'Amicia Hugo, c'est la même chose, on va avoir ses pas chassés, on va avoir
les petits straps
sur le côté, machin, on va avoir une caméra qui est placée au même endroit, on va avoir la relation entre les deux personnages avec un personnage qui va protéger et l'autre qui est protégé. Donc on retrouve vraiment un gros feeling The Last of Us, et pour Asobo, de toute façon, c'est assumé. Je veux dire, c'est un jeu qui, a priori, les a marqués, et ça va, il y a pire comme modèle, quoi.
J'imagine que c'est même le pitch, tu vois, quand il le présentait, c'est, Plague Tale, c'est quoi ? C'est un peu The Last of Us pendant le Moyen-Âge français, tu vois.
Ouais, ça m'étonnerait pas que ça soit un truc sur lequel ils aient justement voulu jouer, en disant, on veut faire un The Last of Us avec, par contre, nos racines.
Nos racines, le terroir.
Pour la tribu de
Non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment plein d'éléments. Déjà, effectivement, c'est pas post-apo, mais presque, quand même, quand il y a 50% de la population qui se fait décimer par une maladie, c'est un peu l'apocalypse. Il y a effectivement cette relation protecteur-protégé, et puis surtout cette relation qui va être à la fois au centre des enjeux narratifs, hein, vraiment, c'est l'évolution de ces deux personnages et comment leur relation elle évolue. Il y a ce côté aussi qu'au début, ils se connaissent pas tant que ça, finalement, parce que Hugo, il a toujours vécu vraiment confinée, elle, Amicia, elle vit sa petite vie dans sa cambrousse, mais ils ont très peu échangé, ces deux personnages, ils tiennent l'un à l'autre, mais simplement pour des liens familiaux, ils vont vraiment apprendre à se connaître et surtout à se reposer l'un sur l'autre. Au début, on va vraiment protéger Hugo, mais au fur et à mesure du temps, surtout avec son gain de confiance et son gain de pouvoir aussi, hein, c'est pratique de pouvoir contrôler les rats, on va pouvoir se reposer sur lui.
Oui, c'est ça. Alors, mini spoil de The Last of Us, vous pouvez avancer 15 secondes si vous écoutez sur Spotify très vite, on va contrôler Hugo comme on contrôle Ellie à la fin. Ça, c'est Benoît qui le disait, mais quand on envoie les rats avec Hugo, il y a la mère qui se tient à lui comme Hugo se tenait à nous quand on jouait Amicia, donc il y a vraiment cette notion, le protéger, prend confiance.
C'est ça, tous les enjeux narratifs sont autour de ces deux personnages-là, on va les voir évoluer, chacun de leur côté, on va voir Amicia qui prend confiance en elle, qui va apprendre à faire confiance à son petit frère, on va voir le petit frère qui va perdre son innocence, du coup, effectivement. Donc il y a toute cette idée-là d'évolution des personnages, et ça, c'est très The Last of Us, en fait. C'est vraiment ça qu'a apporté The Last of Us, c'est l'idée de, plutôt que de nous raconter une bête histoire de héros comme d'habitude, on va avoir des personnages assez humains, avec des défauts, avec des qualités, des défauts, des problèmes, des mensonges, des non-dits, etc. Ouais. Et on va voir évoluer leurs relations. Voilà, tu vois, on retrouve un peu la même dynamique avec Amicia qui cache des choses à Hugo parce que il est jeune, elle a pas envie de lui dire papa et maman sont morts, et sinon ta crise, comment ça se passe? tu vois, elle veut éviter de tomber dans ce genre de truc-là. Comme d'habitude, la vérité, en fait, c'est parfois mieux que le mensonge. Hein. Les enfants qui nous écoutaient, dites la vérité à vos parents et à vos petits frères en cas de peste. C'est très important. Et donc, toute cette évolution-là, c'est vraiment ça, le cœur du jeu. Et je trouve que c'est vraiment ça qu'ils ont retenu, je pense, de The Last of Us. Et ça se ressent vraiment dans tous les éléments du jeu. Hein, parce que tu avais noté, toi aussi, évidemment, monsieur level design.
Non, mais c'est vrai que oui, on a vraiment cette école, cette façon de faire à la The Last of Us. C'est-à-dire que c'est des niveaux qui sont très linéaires. Hein, c'est les fameux couloirs, mais c'est les couloirs de Naughty Dog, c'est-à-dire que c'est des couloirs qui sont très très habillés, où tout est fait pour te faire oublier que c'est des couloirs, mais par contre pour te faire aller toujours dans la bonne direction. Donc il y a plein d'indices visuels implicites, il y a la fameuse couleur blanche, dans The Last of Us c'était la couleur jaune, là c'est la couleur blanche qui va marquer les murs sur lesquels on peut grimper, les endroits sur lesquels se cacher, où c'est qu'il faut se diriger. Je vois encore cette espèce d'image où on est dans une espèce de grenier et la fenêtre par laquelle il faut passer, il y a une espèce de drap blanc qui pendouille, et c'est vraiment des indices comme ça qui te guident à travers
le jeu. Il y a beaucoup de rubans blancs, je me souviens une fois t'as un bouclier aussi aussi avec des traits blancs et qui est vraiment sur un, qui est vraiment placé de vers là où tu dois aller, même les jambons. Alors du coup, il y a un peu des trucs qui se pas qui se contredisent, mais ça se rajoute, genre les jambons, ils ont un petit ruban blanc aussi, sauf sauf qu'ils sont ils luisent un petit peu, ils sont surbrillants.
Oui, il y a les éléments avec lesquels tu peux interagir sont quand même en surbrillant parce que bon, le jeu est quand même assez sombre hein, on se retrouve souvent en plus dans des zones qui sont un peu entre l'ombre et la lumière parce que bah on va jouer aussi avec les rats avec ça. Ce qui est intéressant aussi bah c'est vraiment toutes les gestions des lignes de fuite, des perspectives, la caméra, comment elle va se placer pour nous montrer subtilement vers où le regard doit aller et du coup où on doit diriger l'avatar. Moi je pense que la séquence qui représente bien ça c'est la fuite dans le village hein. Il y a toute une espèce de séquence de fuite où on tient la main de Hugo parce qu'on se fait pourchasser par des villageois qui veulent pas de nous et vraiment bah on n'est jamais perdu, c'est-à-dire qu'on est dans l'espèce d'urgence mais on sait toujours où il faut aller parce que justement ils placent la caméra, ils mettent des grandes lignes de fuite qui nous dirigent et qui nous permettent de rester toujours dans cette fluidité.
Ouais,
et
on ça, voit suffisamment utile. Tôt les ennemis quand ils arrivent, donc on sait à quel moment on va tourner et c'est vraiment une bonne maîtrise ça au niveau du level design parce que on reste quand même dans une configuration de village, on n'est pas dans des rues tu vois à l'américaine où c'est vraiment des angles droits etc.
Oui, tout à fait, ouais.
On a des petites rues dans tous les sens, il y a des petites ruelles, il y a des petits machins et ça fonctionne super bien quoi. Vraiment tu peux courir, ta vitesse n'est pas suffisamment grande tu vois pour que tu te dises je vais me bouffer des murs. Ça aurait été très facile de rater ce genre de passage là et c'est là que tu te dis qu'effectivement bah voilà ils ont regardé ce qui se passe du côté de chez Naughty Dog. Comment on fait pour indiquer aux gens de manière subtile où aller et c'est vrai que cette séquence là j'y avais pas pensé mais quand on en a parlé à la préparation c'est vrai que ça fonctionne à fond. Je me suis jamais demandé où est-ce que je dois aller. J'ai juste couru. Toi t'as l'impression de courir en ligne droite, en fait tu tournes mais voilà c'est fluide.
Oui, tu sais toujours parce que voilà t'as les ennemis qui vont arriver par une porte donc tu dis bah ok c'est pas par là. Ensuite quand tu vas arriver tu vas voir des barricades qui dépassent, des espèces de piquants donc tu dis bah c'est pas par là non plus. Donc c'est plein de petits indices comme ça que en tant que peut-être que nous on n'a pas eu de difficulté parce qu'on a toute cette grammaire qu'on connaît comme ça du jeu vidéo. Peut-être que des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ce sera peut-être plus compliqué pour eux, mais c'est vrai que quand on connaît un petit peu ces codes en tant que joueur joueuse on peut arriver quand même à se laisser vraiment porter.
Et il gère aussi un petit peu le rythme un petit peu à la Last of Us, t'as des puzzles, alors t'en as beaucoup plus dans le Plague Tale mais t'as des moments où tu dois trouver une petite caisse que tu vas devoir tirer pour pouvoir atteindre un bord un petit peu surélevé, ça aussi c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup. Et un truc qu'on a beaucoup aussi chez Naughty Dog c'est d'autres IA en fait. Dans Plague Tale on est avec le père puis la mère qui va un petit peu nous apprendre qui est le tuto.
Ah oui, c'est vraiment le tuto, la mère c'est le tuto infiltration.
Ouais, le père c'est le tuto fronde.
Ouais,
voilà,
c'est ça,
à peu près tout.
Et
après on a cité, il y a Lucas, il y a Rodrigue, il y a Hakim, Mélie, Arthur et de temps en temps un d'autres, je sais pas, tu peux avoir le moine du monastère, tu vas suivre quelques secondes. Enfin bref, il y a un petit peu différents persos comme ça. Et dans les Uncharted ou les Last of Us, il y a aussi beaucoup de Last of Us, je pense je peux citer 3-4 personnages vraiment qu'on va suivre à un moment ou qui vont nous suivre nous, mais en tout cas qui vont discuter avec nous et nous accompagner, faire un petit bout de chemin avec nous.
Oui, et puis même dans Uncharted 4 aussi, hein, c'est très 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 présent, on est toujours accompagné et c'est, comme tu le dis, c'est important pour la gestion du rythme parce que tu te calques sur la façon d'avancer de ces personnages, etc. Et ça marche toujours bien et ça permet de faire à la fois quand il y a besoin d'aller vite, le personnage à côté de toi va aller vite, va courir, va accentuer le sentiment d'urgence, et parfois quand c'est un peu plus chill, tu vas le sentir parce qu'il va se balader tranquillement, tu vas pouvoir un peu plus discuter. T'as même des petits dialogues optionnels hein, qui dans des petits recoins où tu peux trouver des petites fleurs avec Hugo qui va accrocher un petit coquelicot sur l'oreille d'Amicia, et là ça va déclencher des petits dialogues optionnels comme on pouvait les trouver dans The Last of Us.
Et ce qui est intéressant c'est que par contre on est toujours dans une pas dans une fuite en avant, mais c'est quelque chose qui avance constamment, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de moment de temps d'arrêt, c'est juste qu'ils vont jouer sur le rythme, mais il n'y a pas juste on avance ou on s'arrête, c'est on va avancer plus ou moins vite. Il va y avoir effectivement des moments comme ça de pause. Moi je pense au moment où Mélie elle commence un peu à titiller Amicia en le disant, alors Lucas c'est un peu tu vois genre est-ce qu'il se passerait pas quelque chose, alors qu'au final Lucas il en pince pour Mélie hein, on le sait plus tard, on sait pas ce qui va se passer par la suite.
Moi je pense qu'il en pince pour l'alchimie hein.
Ouais, il en pince pour l'alchimie aussi
hein,
ça c'est sûr, mais pas seulement parce qu'il essaye de l'impressionner. Il y a tout un tas de séquences où il essaye de l'impressionner, et t'as tous ces moments là où le rythme en fait naturellement va s'installer, tu vois, il y a des moments de connivence, il y a des moments humoristiques etc, mais tu continues toi d'avancer. Il y a vraiment aucun moment donné où le jeu tu te dis je stagne et je ne sais pas quoi faire. Donc Donc tu progresses, t'avances, et on a cette fluidité qui est très spécifique des jeux comme ça, narratifs à la Naughty Dog, qu'ils ont réussi à reproduire, quoi.
Je repense juste à un petit moment hub, par contre, que t'as le château dont on parlait tout à l'heure, où là, il y a peut-être un petit peu plus une phase un peu de discussion. Alors en fait, tu dois peut-être, je sais plus exactement, mais on va dire que tu dois rejoindre Lucas.
Oui,
qui
tu
va
dois parler un peu aux différents personnages.
Mais tu peux ou tu dois, c'est vrai que là, j'ai plus de détails, mais je pense que tu dois avoir des moments un peu optionnels où tu peux parler à Amélie ou à son frère ou à machin, et c'est un moment un peu central, mais du coup effectivement ça contraste en fait avec tout le reste où tu fais que avancer.
Et puis c'est justifié par l'histoire parce que c'est le moment où ils sont en sécurité, ils sont dans leur château, ils ont fui les rats, ils ont fui l'Inquisition, ils sont peinards quoi, ils ont leur château.
Le droit de se poser un peu,
donc ça c'est pas mal, t'as vraiment à chaque fois
on le ressent bien d'ailleurs ces sentiments d'être pourchassé, ensuite d'être en sécurité quand on arrive dans ce château d'ombrage qu'on a conquis en se débarrassant vraiment de tous ces rats, ce petit moment là justement où on peut parler un petit peu à tout le monde, il y a une espèce de sérénité qui s'installe, et le fait aussi de ne plus être accompagné, il y a un moment où on se retrouve tout seul, quand on se retrouve tout seul avec Amicia, quand on doit rejoindre la fameuse bibliothèque, et là on le sent justement qu'on n'est plus accompagné, et ça aussi c'est quelque chose que Naughty Dog sait très bien faire, c'est de nous enlever l'IA, à force de s'être reposé dessus, on se sent tout seul, et c'est quelque chose qui se ressent vraiment manette en main, se dire ok je suis livré à moi-même, et je trouve que ça fonctionne aussi très bien.
Et ce qui est bien en fait c'est qu'ils n'ont pas simplement essayé de cloner The Last of Us, parce que c'est vrai que ça aurait été facile de juste dire on prend la formule une fois qu'on l'a comprise, ce qui en soi déjà est assez complexe, mais on la reproduit à l'identique, ils ont quand même voulu avoir leur propre identité, leur propre style. Alors bon, il y a le choix du cadre, effectivement ça se passe en France, ça se passe au Moyen-Âge, il y a déjà quelque chose, mais même dans le ton, dans l'écriture, je trouve moi en tout cas qu'on tombe beaucoup moins dans le mélo que dans pas mal de productions Naughty Dog, où disons quand il y a des moments, moi c'est un truc que j'aime assez peu on va dire dans les Uncharted, c'est que les moments où il faut que tu sois ému et les moments où il faut que tu sois triste, c'est impossible de passer à côté, le jeu met vraiment tout en place pour te laisser faire. Là le Plague Tale, il y a un petit peu de, on va dire, de distance par rapport à ça, je trouve qu'ils arrivent à avoir des réactions qui sont peut-être plus crédibles, qui sont effectivement moins on te tient par la main, mais ils te laissent toi joueur à faire le boulot de te dire qu'est-ce qui est en train de se passer, comment moi je réagirais par rapport à ça, comment ces personnages là ils réagissent, et du coup tu vois, tu réfléchis un petit peu à ce qui se passe. Moi la séquence qui m'avait marqué c'était l'arrivée sur le champ de bataille, parce que du coup comme il y a aussi en fond de toi la guerre de 100 ans,
il y a un gros moment du jeu quand
ouais,
même,
ouais vraiment, c'est vraiment toi tu dois traverser tout ce champ de bataille, etc. Il y a des monceaux de cadavres littéralement, tu marches dessus, et t'as Hugo qui a cette réaction incroyable où il dit tu crois qu'on leur fait mal, tu vois, parce que en fait il a 6 ans, et ce qui est très difficile dans un jeu, on va sûrement en reparler à un moment donné, c'est d'écrire des enfants. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, les personnages des enfants, soit c'est
même
des
dans
trucs
les films je pense que vraiment pour tous les gros médias comme ça, c'est toujours très difficile de créer un enfant de 6 ans et qu'il ait des réactions crédibles. Moi je déteste dans les films quand t'as des gamins qui ont 5 ans et qui sortent des phases vraiment d'adultes, tu vois, ça me sort du film, je déteste ça. Et oui, ils ont plutôt
et là ça fonctionne bien parce que t'as justement cette innocence qui est un peu sa caractéristique première effectivement, et t'as ce genre de phrase où tu te dis mais pourquoi il dit ça, et 30 secondes après, enfin même pas dans l'instant, tu te dis c'est vrai qu'il a 6 ans, et en fait le décalage entre la réalité et comment lui il perçoit le monde, tu la comprends, mais t'as pas un gros angle de caméra sur un cadavre mort avec un dessin de ses enfants en disant papa reviens de la guerre tu vois, il y a pas trucs comme ça où on veut absolument t'arracher des larmes, ça reste quand même, je trouve, à toi de faire ce travail là en fait,
suggéré même si bon il y a quand même la scène
alors que pourtant c'est vraiment, moi j'ai jamais vu de séquence comme ça dans un jeu vidéo avec des centaines de milliers de cadavres à l'écran. Enfin, j'exagère, il y en a peut-être pas, il y en a quelques milliers. Mais vraiment, à perte de vue, tu vois les costumes bleus, les costumes rouges, et tu sais que c'est tous morts. Il n'y en a pas un de vivant.
Puis il y a un travail sur la photographie, je trouve, dans ce jeu, vraiment sur la gestion de la lumière et de la colorimétrie. Vraiment, ce moment de jeu, cette espèce de désolation comme ça, tu sens que c'est vraiment les restes de la guerre un peu fumant comme ça. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à faire des grands moments. Dès l'ouverture du jeu, tu le remarques quand t'es dans la séquence dans la petite campagne avec Amicia,
c'est tout lumineux,
c'est vraiment le moment,
c'est Happy Days.
Voilà, regardez, on est 40 mais on a fait ça les gars, et je pense que c'est vrai, quand tu regardes le jeu tu fais ah ouais quand même, les couleurs, il y a cette espèce de d'automne comme ça qui te saute aux yeux, c'est très beau.
T'as une progression assez évidente en fait dans le jeu, tu commences avec ça, avec ces couleurs chatoyantes, tu vires déjà dans le gris en fait à la fin du tuto quand t'es avec la mère, parce que je crois qu'il commence à pleuvoir en fait.
T'as
avant
le chien qui
meurt.
Se fait bouffer aussi,
oui,
tu vois, on l'avait oublié, mais
après tu reviens au village et t'as toujours ces couleurs là, mais à la fin du tuto quand t'es avec la mer, je crois qu'il commence à pleuvoir et t'as vraiment du gris qui commence vraiment à s'abattre. Enfin là, les couleurs s'estompent complètement. La mer meurt. Après, c'est très gris. En tout cas, j'ai l'impression que pendant la
c'est très sombre. T'as la dernière, tu sais, quand tu cours jusqu'au bateau là, c'est vraiment très sombre et tu vois juste les explosions
limite,
des rats.
T'as du rouge derrière qui lui un peu entre les arbres.
Il fait souvent nuit aussi parce que comme tu dois avoir une aventure avec les rats, ils sortent pas la journée. Et à la fin, t'es vraiment dans ce côté infecté. T'as beaucoup plus du jaune, du vert en fait quand t'es au niveau de la ville finale avant le grand inquisiteur. C'est beaucoup de colorimétrie de maladie quoi.
C'est vrai, c'est la peste quoi, cette espèce de couleur un peu jaunâtre. Il y a même un peu de vert fluo avec cette espèce de minerai là, de trucs qu'ils essaient de récupérer. Je sais plus du tout comment
Moi non plus, mais en fait c'est ce qui permet d'attirer les rats à un endroit, donc ils l'utilisent pas mal. Ça c'est quand t'es dans le cimetière que tu récupères ça. Enfin vraiment, de toute façon, en termes d'évolution, on passe vraiment de la vie est belle à c'est l'enfer. C'est vraiment la descente aux enfers. Et à chaque chapitre, ils vont avancer petit à petit. Tu vois, moi, une séquence que j'avais beaucoup aimée, c'est tout con. Hein. C'est dans l'intro, quand t'es dans la maison, au fond, tu sais, je sais pas si à un moment vous voyez, il y a la cuisinière qui est en train de faire à bouffer.
Oui.
T'as toute une gestion de la lumière qui est ouf, où tu vois juste les flammes sous le chaudron.
Moi,
il y a de la bouffe partout.
Et
voilà, il y a à manger.
Qu'est-ce qu'il y a ici
là. Mais tu te dis, mais ça a l'air trop bien, mais je vais aller là-bas et tout. Tu sais, c'est un truc très franchouillard en plus, ce côté. Il y a de la bouffe qui déborde de partout. Et ça marche à donf. Et 20 mètres plus loin, c'est des rats, des cadavres et des trucs comme ça. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de visiter, quoi.
Non, mais c'est vrai que, cette identité franchouillarde. Mais c'est vrai que c'est marrant que tu cites ce truc parce que là, tu vois, je revois vraiment cette image de la meuf là qui fait cuire son petit.
Elle est en train de faire son petit bourguignon. Oh, voilà. Tu te dis, je vais regarder ce que c'est.
Alors, je sais pas s'il y en a Aquitaine, c'est très populaire. Je sais pas. Est-ce qu'une spécialité d'Aquitaine, on connaît ou pas? Non, on connaît pas.
Là, tout de suite, je sais pas. Je vais
Si vous êtes d'Aquitaine, partagez-nous vos spécialités culinaires. Qu'est-ce que cette dame était en train de
faire? Tu vois, j'ai les cannelés là qui me viennent, mais c'est pas vraiment leur truc.
Je sais pas si c'était trop l'époque.
Je pense sûr que ça soit le genre de choses qu'ils faisaient à l'époque,
Mais c'est vrai qu'il y a ce côté très franchouillard qui marche bien. Et alors pour nous, je pense que pour un public français, on s'y retrouve complètement. D'ailleurs, il y avait des gens, je me souviens, j'avais vu des tweets de gens qui disaient, ah tiens, j'ai reconnu ce pont parce que c'est de mon coin, quoi, tout simplement. Mais je sais pas, je pense qu'effectivement pour un public américain ou même un public tout simplement international, il y a un truc un peu exotique, j'imagine.
De toute façon, que ce soit pour un public français ou étranger, il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est que c'est aussi de toute façon une vision romancée du Moyen-Âge. Je vous conseille, il y avait une vidéo assez sympa qui est une ils appellent ça Play Conference, qui est fait à la BNF. Ils ont joué une bonne heure et demie Plague Tale, et c'était avec trois historiens qui justement discutaient un petit peu de ce qu'ils voyaient. Et évidemment, c'est un jeu, il y a plusieurs anachronies. C'est un jeu qui va mélanger différentes choses de différents siècles ou qui va simplifier des choses, mais c'est pas une critique, c'est pas vraiment un jugement de valeur. C'est comme je disais, c'est une vision un peu romancée. On est dans un jeu, on est dans une œuvre qui doit de toute façon nous présenter quelque chose dans un jeu un petit peu couloir, et c'est des choses auxquelles on se rattache. Tu vois, le fameux village des deux runes, en tout cas leur coin, c'est la vision un peu idéaliste en fait de ce que ça aurait dû être au Moyen-Âge, mais tout est bien, tu vois, chaque chose à sa place, tout est en belle pierre.
Les petits poulaillers,
ils ont même leur propre petite chapelle où tu sens bien, t'as un effort sur le son là, t'as un mec qui est en train de prier à cause de la peste et tout. Enfin, c'est sûr que forcément, ça reste un jeu vidéo, donc
bien sûr.
En fait, c'est toujours le choix, tu vois, de placer le curseur plus ou moins loin sur la partie réalité et crédibilité historique. Il y avait Kingdom Come qui a voulu le placer beaucoup trop loin, on s'en souvient. Là, en fait, l'idée c'est de trouver cette point d'équilibre entre on peut y croire et ça nous laisse quand même des libertés.
Non, et ils ont réussi. Enfin, je veux dire, moi, j'avais l'impression que c'était ça le Moyen-Âge. Ça marche bien parce que c'est une iconographie qu'on connaît, auquel on se rattache. Et voilà, clairement, y a des anachronismes. En fait, si tu les remarques pas, de toute façon, c'est pas un problème. Et surtout, comme tu le dis, ça permet d'amener les enjeux. Tu vois, quand on rentre, on en parlait pendant la préparation, les centaines et centaines de cochons là chez Laurentius qui sont tous morts. Il y a aucune ferme qui avait centaines de cochons. Hein. C'était pas les exploitations actuelles.
Ou les cadavres sur le champ de bataille, ça, ils en parlent dans la Play Conference. Que c'était pas les bleus contre les rouges, tu vois, en tout cas pas à cette époque-là. C'était un petit peu plus compliqué que ça, t'avais sûrement des couleurs locales, t'avais un peu des mercenaires, mais pour un jeu,
c'est la lisibilité, c'est la compréhension, en fait, pour la fiction, ça simplifie, ça permet de comprendre les enjeux, et c'est important de faire ce travail-là de fiction, de fictionnalisation.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose justement la question, c'est-à-dire qu'on arrive à un stade de la réflexion et de la préparation, tu vois, d'un jeu vidéo, où on sait qu'on a besoin de références culturelles et de références historiques crédibles, fiables, mais jusqu'à un certain point, parce qu'ils ont quand même fait des recherches, tu vois, moi je me souviens très bien, quand j'avais streamé le jeu, tu parlais de l'histoire du pont, moi j'avais des gens sur le chat qui disaient, oui, alors ça, c'est tel arbre, ça ne se trouve effectivement que dans la pinède à côté de Bordeaux là-bas. Et tu disais, ouais, vous, là, d'accord, les gens en fait qui vraiment ils vivent dans la région, ils arrivent à reconnaître leur coin, ça leur évoque un peu. Alors j'imagine qu'il y a un petit biais de confirmation et un petit peu de chauvinisme qui place par là, c'est normal. Mais voilà, ils ont envie, en fait, ils ont eu envie de donner un peu, de montrer le cadre franco-français du Moyen-Âge à des étrangers, avec forcément le côté romancé, quoi. Parce que sinon, pour eux, c'est quoi la vision, tu vois, ça allait être le nom de la rose, des choses comme ça.
Oui,
ils n'ont pas forcément beaucoup de...
Comme ils ont ce film.
Ouais. Non, mais bon, très bien en plus. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas forcément tant d'images que ça pour savoir comment c'était, etc. Ouais. Donc là, ça va leur permettre d'avoir un truc qui n'est pas forcément vrai, complètement vrai, mais qui leur donne quand même peut-être plus de grain à moudre.
Oui, et de toute façon, c'est pas le but d'un jeu vidéo de retranscrire toute la réalité. On parlait de The Last of Us, c'est beaucoup plus contemporain. Les villes, elles sont pas non plus 100% cohérentes. Tu vois, il y a un level design qui est pensé pour se mettre à couvert. Il y a
pas des
tumurés.
Il y a pas
des blocs de pierre.
On n'est pas dans le réalisme. Hein.
Ah bah non.
Mais dans The Last of Us, tu sais quand t'arrives dans une arène, tu vois, tu le remarques. Donc de toute façon, tout est ajusté, un petit peu romancé. Quand on parle du Moyen-Âge, voilà, il y a un peu des icônes auxquelles on va se relier. C'est très quand même les chevaliers, les rats. Bon, voilà, c'est. Ouais.
Bah d'ailleurs, t'en parles. Voilà, les rats. Je pense que là aussi, on parlait d'identité. Il y a cet univers, mais aussi surtout les rats. Ça, c'est vraiment, ils ont vraiment beaucoup bossé dessus. Et là aussi, clairement, on n'est pas dans le réalisme. Hein. Enfin, j'ose espérer que c'était pas vrai. Alors c'était
sort du sol. Voilà,
il y a des colonnes de rats qui montent comme ça. J'espère que ce n'était pas ça. À mon avis, on existerait plus si c'était vraiment.
Ah bah,
vraiment comme ça.
À la dure, hein, quand même, au Moyen-Âge. Nous, on a nos petits trucs de
smartphone et tout. Mais voilà, les rats, c'est intéressant parce que j'avais lu un article là sur Rock Paper Shotgun où ils racontaient justement comment ils ont créé ces rats. Et c'est vrai qu'au début, ils se demandaient comment incarner la peste, en fait, tout simplement. Et au début, ils voulaient faire une espèce de miasme, comme une espèce de brouillard, de trucs un peu visqueux qui seraient là, mais c'est vrai que ça n'avait pas la même puissance évocatrice, et du coup ils ont fait la peste s'est incarnée dans cette espèce de nuée de rats, cette espèce de truc qui grouille, cette espèce de masse un peu informe qui est faite de milliers, hein, littéralement d'individus,
ouais,
de rats.
Il y a eu une grosse com en amont de ça, parce que c'est déjà d'une, quand tu les vois pour la première fois, c'est quelque chose de très impressionnant, hein, tu les vois qui sortent des murs et tout, et ils sont plutôt fiers, tu vois, parce que c'est vrai que c'était un défi technique de réussir à afficher autant de trucs à l'écran.
Jusqu'à 5000.
Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, tu vois, c'est quand même
des trucs où
t'as vraiment un résultat qui est recherché et qui fonctionne bien. Mais par contre, afficher ça sur des consoles avec les moyens qu'ils avaient et le nombre de gens qu'ils étaient, ça a dû être un sacré défi. Ouais, effectivement.
Et pour l'anecdote technique, ils ont pas. Dans des soucis d'optimisation, les 5000 sont pas complètement animés. C'est les 400 les plus proches qui ont vraiment une animation individuelle avec leurs yeux, leur petite queue, voilà, tout ça. Et les autres, en fait, c'est un mix de soit ils sont plutôt immobiles, soit ils ont la même animation, en tout cas un mix qui fait que c'est cohérent de les voir dans le fond, tu fais pas trop attention et t'as cette impression de nuée derrière.
Ouais, puis comme ceux qui sont devant toi, c'est ceux qui sont a priori dangereux, tu te focalises en fait naturellement sur cela.
Et en plus, ils leur ont filé un petit comportement qui fait que s'ils sont au bord de la lumière, il y a cette impression d'agressivité où ils essayent un petit peu, mais ils arrivent pas à venir vers toi, ils avancent, ils reculent, ils avancent. Enfin, t'as vraiment l'impression que, et c'est vrai dans le jeu, dès que la lumière s'éteint, t'es foutu.
C'est instantané, il y a vraiment un côté critters
autour de toi qui s'est créé. Une espèce de petit bouclier à la The Witcher, tu vois, et qu'ils sont bloqués par ça, mais que si jamais ça s'estompe, hop, ils viennent te dévorer. Et d'ailleurs, c'est vraiment
c'est le cas
parce que vraiment, dès que la lumière s'éteint, ils sont tout de suite sur tes fesses, hein, direct. Et ce qui est intéressant aussi, c'est comment, dans l'article, il expliquait comment ils ont géré les comportements de ceux qui sont près de toi, où ils ont en fait quadrillé le sol de plein de petites cases, et en fait, les cases, comme une espèce de petit labyrinthe, redirigent les rats vers les uns vers les autres, et puis ils se repoussent en fait les uns vers les autres, et ce qui donne cette espèce de nuée un peu vivante, quoi. On a vraiment l'impression que ça vit, ce truc-là, et c'est vraiment important, ce résultat, pour le feeling du jeu, parce qu'il faut que tu sentes ce truc qui grouille, parce que sinon ça marcherait pas.
Toujours sur le plan technique, ça, c'est vraiment le sol, le level design, il est pensé de façon à ce que... Enfin, pas le level design, mais comment dire, au niveau de la technique, c'est fait pour que les rats aillent prennent le chemin le plus court, mais c'est pas les rats qui ont dans leur tête l'optimisation du chemin, c'est le sol qui donne la direction la plus proche de leur cible, en fait, c'est le sol qui réfléchit pour eux, entre guillemets.
Oui, c'est ça, c'est pas des petites IA, en fait, et ils suivent un petit parcours qu'on leur a balisé, comme si on avait un petit morceau de fromage directionnel sur chaque case, et ça les envoie là où ils
veulent. Parce que les problématiques, on a souvent tendance à, tu vois, limiter ça à du côté graphique, en se disant, il faut afficher tant de polygones, hein, tu vois, il faut afficher tant de teraflops et de quadraflops et de trucs flops, je sais pas pas quoi là. Mais au final, t'as aussi un problème de calcul. Bah, t'es méchant, c'est beaucoup de maths, hein, les jeux vidéo. Donc il faut aussi simplement calculer. Si tu leur donnais un comportement à tous, ça poserait vraiment énormément de problèmes. Il y aurait des calculs, des problèmes en permanence. Enfin, on le voit bien dans les jeux qui gèrent par exemple de la physique. Dès que tu commences à faire un peu n'importe quoi, le jeu il sait plus comment réagir et le moteur il part un peu en vrille, quoi. Donc là, bah, forcément, ils ont essayé de trouver un truc qui donne ce sentiment de nuée sans que ça alourdisse le jeu et que tu puisses continuer de le faire, parce que l'idée ça reste quand même d'être une mécanique que tu vas avec laquelle tu vas jouer, c'est pas juste un élément visuel, ça reste vraiment au cœur du jeu.
Oui, c'est vrai que vraiment la boucle du jeu va vraiment tourner autour d'eux. Je pense vraiment la première rencontre vraiment avec les rats et ce jeu de lumière, c'est dans cette espèce de crypte, hein, ouais. Quand on suit là, il y a une espèce de curé qui nous emmène dans la crypte, nous dit ouais, faut passer par là, bonne chance les enfants, amusez-vous bien. Et là on va vraiment être envahi par ces rats et on va apprendre justement à jouer avec la lumière pour pouvoir passer et voilà, nous frayer un chemin au milieu de cette nuée de rats. Et tout au long du jeu, bah, ils vont itérer un petit peu ces idées. On va pouvoir alors soit les écarter grâce à la lumière, alors parfois ça va être avec une torche, parfois ça va être un espèce de foyer qui est sur une charrette, il y a des passages comme ça, on doit se déplacer avec, on doit déplacer un truc. Il y a aussi des espèces de petits faisceaux comme ça qu'on va pouvoir rediriger pour se fabriquer vraiment un chemin lumineux.
Et tu vas les bloquer, tu vas les attirer d'un côté,
tu les coinces dans des
coins.
Et à l'inverse, parfois tu dois éteindre une lumière pour qu'ils attaquent par exemple un garde, donc il y a aussi ça.
C'est ça, on va aussi pouvoir jouer de cette façon-là avec les rats. Alors parfois pour les attirer, bah, tu parlais des jambons tout à l'heure, voilà, on peut tirer sur les jambons, ça fait tomber et ils vont nous laisser tranquilles pour un petit moment. Ou alors on va effectivement pouvoir attirer les rats vers les gardes, par exemple en leur éteignant la lumière, parce que t'as des gardes qui se baladent avec une torche, et au bout d'un moment tu vas avoir une petite fronde d'eau, hein, c'est thief all over again.
Je sais pas vraiment ce que c'est, mais ouais.
Et ça éteint les trucs, et du coup bah, les rats, hop, il n'y a plus de lumière, hop, ils viennent manger le mec en armure, et puis voilà, t'es tranquille.
Jusqu'à ce qu'à la fin on contrôle carrément les rats, et donc c'était un peu un tuto entre guillemets, disons qu'on a vraiment appris tous les tenants et aboutissants des rats, quand allumer la lumière, quand l'éteindre, et du coup une fois qu'on les contrôle, bah on est déjà prêt, en fait on sait déjà tout ce qu'on peut faire avec eux. Et c'est vraiment du coup, les rats c'est devenu un peu l'identité du jeu, d'ailleurs c'est un peu le logo d'Asobo en tout cas sur leur
maintenant, en tout cas alors c'est pas le logo d'Asobo, mais en tout cas maintenant il y a des rats partout, quoi. Dès que tu arrives là-bas, moi j'ai eu l'occasion d'en croiser quelques-uns quand j'étais à Animasia l'année dernière, tu vois, ils ont un rat sur leur pull maintenant, etc. Enfin du coup c'est devenu leur truc à
en
eux,
tout
quoi.
Cas ouais, sur la page Twitter de Sobo, il y a un rat à côté,
ouais. Bah ouais, forcément quand mais, tu
et ils sont vraiment allés jusqu'au bout avec ça, en tout cas ils ont vraiment essayé d'en mettre partout, parce que un autre jeu qu'on peut citer c'est Dishonored le premier, ouais. Il y avait déjà quand même des rats qui faisaient un petit peu partie du paysage
aussi,
mais c'était un peu plus alors pas gadget, hein, mais c'était pas l'identité du jeu. Il y avait quand même un moment, je me souviens, où on doit faire tomber des cadavres, on peut jeter des cadavres pour détourner l'attention des rats, mais je crois qu'on le fait que au début, et de toute façon Dishonored c'est un jeu qui est un peu moins linéaire, c'est-à-dire c'est un jeu qui est basé sur le fait qu'on peut faire plein de choses différentes, c'est une option parmi d'autres, alors que là dans Plague Tale bah c'est l'objectif.
Oui, c'est vraiment de nombreuses fois, c'est vraiment un puzzle, les rats on doit les gérer tels quels, quoi. On aime bien les rats, hein, en France, hein, j'ai l'impression que c'est un peu notre animal totem.
Bah, la peste au final, oui, voilà. Bah, ça fait partie de la culture au final.
En fait c'est que c'est un animal qui fait aussi peur, tu vois, c'est-à-dire qu'un rat, tu vois, presque naturellement, presque instinctivement, on sait que c'est de la vermine, c'est des trucs sales, c'est des problèmes d'hygiène.
Sachant que c'est des puces, hein, la peste, c'est pas les rats.
Ouais,
hein,
elles sont transportées sur les rats. C'est pour ça, t'as une espèce de dégoût quand tu vois un rat qui est presque instinctif. Hein. Il y a pas mal de gens, je pense, qui ont peur de ces trucs-là. Ça aurait été des araignées, ça aurait pas eu du tout le même effet. On aurait été dans une autre évocation.
C'est pas la même.
On aurait pu avoir ce côté grouillant avec des insectes et tout.
C'est pas un symbole d'hygiène, en fait, l'araignée. Ouais,
que le rat, vraiment, il y a cette association de c'est crade, il y a un problème, ça va te manger, ça va te bouffer. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Tu vois, les rats. Alors après, je sais qu'il y a tout un.
Oui, il
y en a partout. Oui, bien sûr. De toute façon,
j'en ai vu à Lyon.
Des rongeurs, il y en a partout, hein, de toute façon.
J'en ai pas vu à Strasbourg.
Ah, si, si,
j'en ai pas vu. Si, bah, attends, tu parles. En plus, là, nous, on a le.
Regarde, il y en a un.
On a le canal, qui est pas loin.
J'ai vu des rats gondins, hein, près du.
Ah, oui, c'est vrai qu'il y a des maxi rats aussi de ce style-là. C'est le niveau évolué. C'est les boss.
C'est les Pokémon. Ils évoluent. Mais du coup, c'est vrai que le rat, c'est en termes d'image, ça t'évoque tout de suite quelque chose et tu sais tout de suite à quoi t'attendre. Et là, en plus, ils ont rajouté cette surcouche un peu fantastique des rats qui veulent te bouffer absolument et qui réagissent à la lumière, quoi.
Et ils vont prendre même plusieurs formes. Hein, dans la deuxième moitié du jeu, il va carrément avoir des espèces de nuées de rats, des espèces de petites tornades comme ça, de rats.
Voilà, le fameux moment « pourquoi pas ».
Voilà, le premier moment « pourquoi pas ». Je me souviens, il y a toute une espèce de séquence où on retourne dans un espèce de village et qui est complètement mais ravagé par les rats.
En fait, tu retournes à la maison de Rune.
C'est les deux
ouais,
Rune.
Ouais, tu retournes à la maison de Rune.
Là-bas, t'as des couloirs qui ont été complètement... t'as l'impression qu'ils ont une foreuse, hein, les rats. Ils ont complètement creusé des grands tunnels comme ça. Et c'est vraiment assez immonde. Ils ont rajouté cette espèce de creep un peu comme ça, cette espèce de matière un peu visqueuse qui habille tous les lieux par lesquels
on parlait du creep, tu vois, des ergues. Oui, c'est exactement la même idée. C'est là où ils sont, ils installent ça, ils ont plus 5 de mouvement en déplacement.
Et oui, c'est vrai, ils ont vraiment l'identité avec la musique aussi, notamment. Alors la musique, hein, elle est évidemment dans tout le jeu, il y a une identité musicale avec le jeu. Je vous recommande d'ailleurs In Dev With sur Gamekult, où il y avait 3 personnes, dont Olivier de Rivière, qui parle un petit peu de toute la composition. Mais les rats, il y a vraiment ces moments qui leur sont propre. Quand on fait tomber les fameux jambons des cadavres, il y a les cordes qui s'emballent tout de suite de violoncelle, ça fait tag tag tout de suite quand ils foncent dessus. Donc il y a vraiment cette identité.
Ouais, il y a des espèces de crissements un peu aigus ça qui sont limite gênants. Et puis, mais en fait, on l'associe vraiment au rat et au mouvement en fait du rat. T'as cette espèce de vraiment de mouvement symphonique comme ça qui s'emballe et qui correspond au mouvement de la foule de rats.
Et ça leur donne une personnalité très très forte, parce que du coup, à l'instant même où tu commences à entendre les cordes, tu sais que ça veut dire qu'il va y avoir des rats, et au simple bruit, tu sais s'ils sont en train de se déplacer ou pas. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie du travail de sound design qui permet de donner aux gens, c'est ça exactement, un feedback bête et méchant, de savoir qu'est-ce qui se passe. Si j'ai eu ce bruit là, il est gênant, le bruit des jambons, mais en même temps tu te dis ça veut dire qu'ils sont sur le jambon, ils sont pas sur moi, tu vois. Donc ça fonctionne bien, et il y a tous ces moments où ils vont se jeter sur les ennemis, etc. Enfin, t'as tout le temps, dès que t'as des rats, tu vas avoir en fait cette espèce de petite couleur de violoncelle qui vont être très strident, très rapide, avec des mouvements vraiment violents, et tu sais que ça imagine, en fait, ça te permet de suggérer le côté un peu grouillant de ces bestioles, quoi.
Et puis même quand tu les contrôles à la fin, justement, t'as l'impression d'envoyer cette fameuse vague de violoncelle vers l'ennemi, tu dis tiens, c'est toi qui vas les bouffer, les trucs stridents.
Quand tu contrôles le pouvoir d'Hugo, d'ailleurs, tu entends vraiment t'as du violoncelle, je crois, qui joue, et je pense que c'est une note de mémoire, c'est beaucoup plus clair, parce que c'est très brouillon quand c'est les rats, c'est le bordel, justement ça renvoie bien toute cette idée de nuée. Mais quand t'es avec Hugo, justement, t'es dans le contrôle, donc je pense que l'instrumental est beaucoup plus contrôlé, justement.
Mais alors, le petit reproche qu'on peut faire quand même à ces rats, c'est que, en fait, comme ils fonctionnent vraiment sur des puzzles, c'est-à-dire que ils sont extrêmement prévisibles, en fait, les rats, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent vraiment comme le jeu dicte qu'ils fonctionnent, comme on sait qu'ils répondent vraiment à la lumière. Au final, au fur et à mesure que le jeu avance, je trouve que vraiment le passage dans l'espèce de crypte est vraiment oppressant, et au final, et c'est peut-être même bien finalement qu'on puisse contrôler les rats à la fin, parce qu'à la fin ils ne nous font plus peur, parce qu'on sait vraiment, limite le joueur sait aussi les contrôler, parce qu'il sait les maîtriser, et du coup on désacralise un petit peu cette espèce de danger. On a l'impression vraiment que c'est il y a vraiment un côté puzzle, tu vois, c'est s'ouvrir un chemin, se fermer un autre chemin, les utiliser pour tuer un ennemi, et du coup on a moins cette peur là. Il n'y a pas ce truc très vraiment, je trouve que le mot prévisible, c'est ça, ils sont prévisibles, et du coup tu n'as pas ce côté là que tu vas pouvoir avoir, je sais pas, dans Resident Evil ou télé, je pense aux zombies de RE2 qui sont des grosses éponges à balles, et tu sais jamais s'ils sont vraiment morts. Alors tu peux le savoir, mais parfois je me baladais, j'avais l'impression qu'il était mort, et tu sais, il se relève et il te rattrape comme ça. T'as pas ce côté imprévisible qui fait que la peur est toujours installé. Pour les rats, dans le Plague Tale, c'est soit ça passe, soit ça passe pas, en fait. Ça ne se joue pas.
Oui, parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Tu disais pendant la préparation, Max, à l'instant où tu te fais choper, tu as peut-être l'occasion de faire 2-3 pas max, mais de toute façon, si tu t'es fait avoir et que tu n'es plus dans la lumière, c'est mort. Des fois, tu vas réussir à t'en sortir in extremis, mais c'est extrêmement rare, et le jeu ne joue pas là-dessus. Le jeu veut vraiment que tu apprennes à maîtriser les rats comme étant une mécanique de jeu, d'un point de vue très design du truc. Et justement, heureusement, comme tu dis, qu'on les contrôle à la fin, parce que sinon, en fait, ils ne font que désamorcer le danger des rats. Au début, ils sont présentés comme le truc le plus horrible sur lequel on peut arriver, et c'est vrai que ça peur, ils te courent après, etc. T'as la séquence où tu sors là du monastère, où tu retournes à la lumière, et enfin tu dis ça y est, je suis libéré. Après, t'as le port, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, ils te font vraiment plus du tout peur, parce que de toute façon t'as des solutions, t'as des lumières, petit à petit ça devient une armée à elle toute seule, Amicia, à partir du moment où tu commences à pouvoir lancer plusieurs cailloux à la suite, tu chopes les pouvoirs là, les trucs alchimiques très très forts qui permettent de détruire des nuées de rats d'un coup. Donc c'est vrai que ça perd quelque chose, et je sais pas si c'est quelque chose qui aurait été difficile à modifier, parce que moi je trouvais que c'était un peu dommage quand même qu'on n'ait pas peur justement de ces rats là. J'aurais bien aimé qu'on ressente nous aussi en tant que joueur la peur que eux ils doivent ressentir, alors qu'en fait tu sais juste que bon, bah, je vais mettre la lumière, oups, c'est pas grave, et je vais recharger.
C'est mécanique, tu vois, il y a vraiment un truc, bah, je sais, je vais suivre un certain nombre d'étapes, et si je respecte ces étapes, bah, ça va bien se passer, en fait. Il n'y a pas ce petit truc imprévisible qui va faire que t'as peur. Même s'il y a un moment qui est sympa, moi j'avais bien aimé quand on est séparé avec Hugo, bah, on est dans une même pièce, mais on est plus ou moins séparé, on doit jongler en fait entre les lumières, à un moment on lui passe une torche, on doit le suivre derrière une espèce de grillage, et ça c'était pas mal. Enfin, ils ont quand même des bonnes petites idées, hein. Vraiment, le jeu, il arrive tout le temps à se renouveler dans les situations, ça c'est vraiment quelque chose.
Et là, tu vois, cette séquence, elle est intéressante parce que c'est un bon exemple du moment où justement ils jouent avec leurs propres limites. Parce qu'en fait, comme lui est dans l'auréole de lumière qui est faite par son truc, toi t'es au bord et donc tu sais jamais, et c'est pas toi qui le contrôle. Et là, dans ces cas-là, tu as effectivement ces moments de crainte, mais quand c'est toi qui es en contrôle, ben t'as vraiment aucun danger, il y a peu de chances que ça se passe mal, quoi.
Mais au final, ça c'est quelque chose qui plus globalement concerne un petit peu tout le jeu, hein. C'est pas étonnant que les rats ils soient prévisibles parce que bah, c'est un jeu quand même d'infiltration. Et c'est un jeu où il n'y a pas vraiment d'adresse qui est demandée. C'est pas alors bon, c'est pas complètement un jeu d'infiltration, mais Last of Us par exemple, tu en as. Disons que tu ne maîtrises pas toute la situation.
Bah, t'as des phases de shoot où tu peux rater.
Voilà, t'as les phases de shoot, tu peux rater. Il y a un nombre d'ennemis qui te dépasse un petit peu parce que ils sont tous en train de. Il y en a qui peuvent te contourner. Bon après, l'IA est pas non plus complètement pété, mais dans ton cerveau, tu sais pas tout ce qui se passe à un instant donné. Tu dois gérer tes munitions, ton positionnement, donc tu ne maîtrises pas toute la situation. Dans Plague Tale, t'as des safe zones qui c'est dans la lumière, et quand t'es caché dans la lumière, c'est bon, t'as tout le temps du monde de voir ce qu'il y a devant, et le jeu, même s'il y a parfois des patrouilles de garde et des zones, t'as peut-être un ou deux chemins différents, donc toute la situation elle est devant toi, tu vois, tu contrôles tout, tu contrôles de la safe zone jusqu'à la prochaine safe zone, il n'y a pas de raison que ça foire en fait, ton plan une fois qu'il est effectué, et puis le jeu aussi il est très balisé, hein. T'as des moments, t'as juste des casseroles qui sont littéralement accrochées à des endroits, il faut juste que tu jettes ta pierre dessus, le garde il y va, et puis hop, tu passes, tu vois, c'est assez simple.
En fait c'est pour ça que moi je fais un peu la différence, j'appellerais pas ça un jeu d'infiltration, parce qu'en fait pour moi l'infiltration c'est du puzzle, mais c'est du puzzle ouvert, c'est-à-dire que t'as toujours plusieurs trucs, c'est ça qui rend le jeu d'infiltration intéressant, c'est de dire bah, les outils que tu as à ta disposition, la situation. Enfin, tu prends Metal Gear Solid 5 ou Hitman, c'est vraiment ça, tu vois, c'est plein de petits puzzles et tu choisis un peu comment tu résous les puzzles. Alors que dans A Plague Tale, quand même, sur une grosse partie du jeu, c'est le puzzle, il est tel qu'il est et va falloir que tu suives comme on a fait. Il va falloir effectivement que tu tapes sur les casseroles à ce moment-là, ensuite que tu ailles se cacher derrière là, ensuite que tu emmènes les rats ici et patati et patata, et c'est vraiment. Plus ou moins, t'as très peu de plate, d'amplitude en fait de mouvement.
Et l'exécution, voilà. On ne peut quasiment pas rater.
Exactement, parce que y a
une grosse assistance. Il y a une grosse assistance sur la visée. Et c'est là en fait où on peut justement peut-être reparler deux secondes de cette histoire de double A. C'est que l'une des ambitions aussi, ça reste de toucher un public assez large. Ouais. Donc l'idée d'enlever le fait que les gens ils aient besoin de savoir viser et de bien mettre la fronde dans la tête, bah, ça te permet d'un coup. Comme ça, de rajouter tout un tas de gens qui ne sont pas forcément très pensés pour le jeu vidéo, ils vont y arriver. Ils vont pas. En fait, ils s'en foutent. Tu vois, ces gens-là, ils s'en foutent du skill et de savoir qu'ils font des headshots. Eux, ce qu'ils veulent, c'est découvrir l'histoire. Et c'est pour ça que le jeu Plague Tale, il essaye vraiment de mettre en avant ça. Et comme tu le dis, de ne pas être un jeu ouvert.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, je pense que si ça avait été un jeu complètement bac à sable,
c'est beaucoup plus difficile.
Voilà.
En fait,
on n'aurait pas de rythme.
Ça demande beaucoup plus cette espèce d'implication cognitive. C'est beaucoup plus exigeant, hein, tout simplement. Il y a une charge mentale qui est bien supérieure à ce que tu peux avoir dans le Plague Tale. Et effectivement, ça ne donne pas la même expérience. Hitman. Metal Gear Solid 5, ce ne sont pas des jeux grand public dans leur gameplay et dans leur progression, parce que ça te demande justement, c'est, tu sais, tu dois planifier, tu te dire, bah attends, je vais essayer de faire ça, de trouver les solutions par toi-même, alors que là, c'est plus un puzzle qui est un peu plus balisé. Ça me fait penser un peu, tu sais, un peu à la Inside. Inside, c'est pareil, tu vois, les puzzles, ils sont pas là pour bloquer.
Ouais, c'est ça, t'as une fluidité, t'avances, voilà. Tu comprends le puzzle, t'avances. Alors bon, tu meurs moins dans Plague Tale que dans Inside, évidemment, mais c'est vrai que tu retrouves cette idée-là. Et ça, c'est vraiment intéressant de le développer, parce que je trouve que c'est dans ces petites différences de philosophie et d'intention de la part des créateurs qu'on arrivera à un terme un jour à vraiment définir des vrais genres de jeux vidéo, tu vois, c'est vraiment dans ces petites nuances qu'on va mettre entre, tu l'as bien dit, l'infiltration, il faut qu'il y ait un côté ouvert, il faut qu'on puisse un peu réfléchir, mais là en fait c'est pas le but, l'infiltration n'est justifiée que par l'univers. Pourquoi
oui,
tu fais de l'infiltration
juste,
bah, parce que tu joues
quoi.
Des enfants en fait,
ça.
Donc eux ils sont pas capables de se battre contre des soldats en armure, ils peuvent pas les tuer à l'épée, même elle est pas assez forte, ils font deux fois sa taille, elle a Hugo à s'occuper, donc bah, elle va les tuer à distance. Elle aurait pu utiliser, je sais pas, un lance-pierre ou un truc comme ça, je sais pas, un arc ou une connerie. Tu vois, se battre à distance, c'est cohérent avec l'univers. Donc le fait de s'infiltrer est justifié par l'histoire. C'est ça qui donne le ton. C'est pas l'intention. Tu vois, c'est pas l'intention qui dit je veux faire un jeu d'infiltration, donc on fait un jeu d'infiltration. Ça, c'est, je sais pas si c'est facile à saisir, mais cette petite nuance là, ça montre aussi toute la réflexion qu'il y a eu derrière et le fait qu'il se soit dit non, nous on veut un jeu quand même narratif, on veut quand même que ça soit ça, donc on va supprimer des choses qui vont en fait brouiller un peu le message. On va pas faire viser les gens, on va mettre une visée automatique.
Et puis quelque chose qui n'est pas ouvert, ça aussi, ça permet de maîtriser le rythme. Tout à l'heure, on disait que ça marchait bien. C'est ça aussi qui fait que c'est bien rythmé, parce que tu peux pas passer 3 heures sur une situation à te dire attends, comment je vais l'aborder, je vais lui donner des sushis empoisonnés. Non, c'est pas comme ça que tu vas jouer, quoi.
Et pour Plague Tale, c'est vraiment à nous, quand même, en tant que joueur, d'admettre ça, de s'en rendre compte. Moi, je me souviens, ça m'a pris quand même, je pense qu'au bout d'une heure et demie, je me suis dit bon, concrètement, ce jeu, il va pas vraiment me mettre en danger. J'ai compris que tout était relativement facile. Je vais prendre vraiment comme une expérience un peu ciné, tu vois. Vraiment, je vais m'attacher au perso, au scénario, mise en scène, mais pas en tout cas au gameplay au sens large du terme.
Et je pense que c'est là, tu vois, cette notion de double A. C'est-à-dire qu'on parle de triple A souvent, il y a aussi quand même une intention de soit de grands spectacles, soit. Alors, il va y avoir des jeux à la Call of Duty, etc., où il va y avoir du skill qui va être exigé de la part des joueurs. Mais quand tu veux une expérience cinématographique, tu vas justement faire comprendre très rapidement aux gens vous allez suivre une histoire, on va vous la raconter, vous allez la vivre, certes, mais c'est nous qui vont maîtriser un peu pas mal de choses. Et c'est là que tu retrouves effectivement ces intentions vraiment plus de narration plutôt que de gameplay pur en fait. Donc moi je comprends qu'en fait, tu vois, pour quelqu'un qui joue le jeu en se disant ça c'est un jeu d'infiltration, tu vas être déçu. En fait, c'est pas du tout ça.
C'est marrant parce qu'il y a The Surge 2, tu vois, qui est aussi édité par Focus, et là c'est vraiment un jeu à gameplay qui va chercher vraiment les core gamers.
C'est l'inspiration
Dark
Souls.
Alors que là, à l'inverse, on est vraiment sur du puzzle, et le puzzle par définition c'est beaucoup plus accessible que le reste, parce que c'est quelque chose qui ne tient en général qu'à nos capacités vraiment cognitives et pas à l'exécution, pas ce qu'on arrive à faire avec nos doigts. Et je pense qu'effectivement c'était intelligent de faire un double A qui peut toucher justement tout ce monde-là parce qu'il y a un gameplay assez simplifié. Malgré tout, moi je le dis, c'est vrai que c'est un jeu qui est très scolaire et il me manque peut-être un truc un peu de folie. Je trouve que le moment vraiment sur le passage du champ de bataille, il est vraiment marquant parce qu'il est fort et voilà, parce qu'il y a Smith Sanden très forte. Mais après, je trouve que ça manque un petit peu de moments qui m'ont vraiment un petit peu plus, qui sont allés me chercher un peu plus au fond de moi-même. Je trouve qu'il n'y en a pas vraiment eu tant que ça dans le jeu, quoi.
Benoît, il nous a rappelé, nous on avait complètement oublié effectivement une scène qui pourrait être assez marquante et dès que tu nous l'as rappelé, on a fait ah oui, c'est vrai, il y a eu ça. C'était avant d'aller dans le château, t'as des éclairs. Tu longes une falaise et en fait il y a plein de rats qui sortent un peu de petites grottes ou je sais plus trop quoi, et il y a des éclairs qui arrivent en rythme régulier, ça tombe bien, et à chaque fois qu'il y a un éclair, du coup les rats ont peur de la lumière et rentrent dans leur trou, et du coup nous on peut passer pendant ce temps là mais c'est parce qu'il y a ce côté justement où effectivement tu as rappelé, j'ai fait ah oui c'est vrai qu'il y a eu ça, c'était plutôt sympa, mais c'est juste du rythme en fait, c'est juste de la lumière, les rats rentrent, on passe, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup vécu, et c'est pas non plus incroyable, tu vois.
Ce qu'on se disait, c'est qu'en fait dès qu'on arrive dans une nouvelle situation, que le jeu a une nouvelle idée, on la comprend tout de suite, on fait ah ok, c'est ça qui va se passer, et du coup on va jouer comme ça. Et c'est vrai que c'est toujours bienvenu parce que ça amène du rythme, mais par contre c'est toujours convenu dans le sens où tu dis je sais ce que je vais faire, quoi, mais c'est efficace, hein, franchement ça marche, hein, le jeu il se suit bien, hein. Moi franchement je me suis
pas ennuyé.
T'as
pas de sentiment de lassitude,
c'est
ça, ouais. Voilà. Ça c'est très compliqué parce que quand t'as une mécanique qui est un peu basique, le coup de je mets de la lumière, il y a des rats, j'en mets pas, il y en a plus, enfin il y a des rats qui rentrent, c'est assez basique, c'est une mécanique qui est simple avec laquelle tu vas jouer très facilement. L'idée de réussir à jouer sur 7, 8, 10 heures constamment, ça aurait été très simple de perdre justement le rythme. Tu vois, on va reciter du Naughty Dog, mais Uncharted, c'est les ennemis, c'est petit à petit, ils vont avoir un casque, ensuite une armure, ensuite ils vont avoir un pompe, et ensuite ils vont avoir une mitrailleuse, et la progression comme ça, ça a ses limites. Donc eux, en fait,
ils se sont arrêtés à casque.
Ouais, ils sont arrêtés au casque. Et aux trois quarts du jeu, ils se sont dit, on va twister le truc, on va inverser la vapeur, vous allez contrôler les rats, et ça va permettre d'éviter justement ce sentiment de lassitude. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a ce côté, comme tu dis, très scolaire, parce qu'ils appliquent des règles de game design vraiment à la lettre. C'est
chaque chapitre,
il y a une idée,
l'itération,
on va éviter.
C'est les exercices de maths, tu vois, pour moi, le game design, pour moi, c'est l'apprentissage. Et quand j'apprends les maths, moi, la meilleure façon d'apprendre les maths, c'est tu me donnes le cours, et ensuite tu me fais faire trois exercices. Et ensuite, on apprend une nouvelle chose, et tu me fais faire les exercices. Et c'est vraiment ça qui se passe vraiment dans Plectel, hein. C'est regarde, maintenant tu as le pouvoir d'enlever les rats, et ben je te donne les exercices avec les rats. Ensuite, maintenant tu as les pouvoirs où tu peux les attirer quelque part, je te donne les exercices avec attirer quelque part, avec toutes les petites problématiques, et ça avec les gardes, est-ce que ça va être la lumière, les machins, et on mixe tout ça, et ça marche. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté toujours, bon bah voilà, je sais où je suis à la maison quand même.
Ouais, on se disait entre nous en fait, oui, le gameplay s'enrichit de différentes choses, hein, de différents éléments alchimiques, ou différentes capacités avec notre fronde, mais c'est toujours un peu des nuances de la même couleur. En fait, on n'est pas. On est, comme tu disais, on est toujours un peu à la maison, c'est. Dès que t'as le nouveau pouvoir, tu fais ok, ça va me servir à ça, et c'est pas, ça te sort pas complètement de ta zone de confort.
Là, quand on parlait des rats tout à l'heure et du fait qu'ils font pas forcément très peur, moi, l'exemple qui me vient en tête en termes de son, tu vois, c'est le espèce de caquettement là des clickers dans The Last of Us. Le bruit, si demain je l'entendais dans mon lit, tu vois, je serais en train de me pisser dessus parce que le bruit est devenu synonyme de peur et de vraiment de frayeur. Que là, si j'entendais les grincements, je me dirais bon, il y a des rats, c'est pas grave, j'allume une bougie, ça va bien se passer. Donc, c'est vrai que il manque, comme tu dis, je pense, ce petit truc en plus qui permettrait au jeu d'avoir vraiment des moments, ce qu'on disait dans la préparation, c'était le moment girafe,
ouais,
The Last of Us.
Genre moment, et puis il y en a plein d'autres, même le moment où on découvre les Lucioles, il y en a plein des moments aussi où le rythme s'accélère parfois dans The Last of Us, et ça marche bien. Mais moi, je pense aussi, et Naughty Dog, on le voit, ils sont en train de passer de ce côté-là, c'est il y a de moins en moins de gameplay finalement. Alors que justement, Plague Tale est très quand même dans son puzzle, il te fait beaucoup jouer, il y a beaucoup de séquences de là. Alors que tu dirais, il pourrait y avoir plus de moments de contemplation où simplement on se balade, où simplement on est en train de papoter avec les personnages. Ça pourrait marcher en fait d'être un peu plus walking simulator, hein, je mets des gros guillemets là-dessus.
J'ai eu un moment vraiment où là, tu sens, il voulait faire une scène vraiment émouvante, c'est le fameux moment, tu disais avec Hugo, où on se passe un moment une torche à travers le mur. Dans le monastère, à un moment Hugo il a une porte où lui il peut partir pendant que nous pas, et à un moment il crie, tu vois, il dit ah Amicia viens m'aider machin, et on est séparés, et du coup on doit courir, on doit faire un peu le tour, on sait pas trop par où on passe, on sait pas ce qui lui arrive, on sait pas trop par où on doit passer, et au moment on est en train de courir, et là il y a vraiment en plus la musique qui s'intensifie, enfin qui est un peu inquiétante, enfin c'est vraiment c'est une scène qui pourrait être très forte, et à un moment t'avances et sur ta gauche en fait t'as une petite salle où t'as des éléments de craft, et du coup tu dois faire un petit détour parce qu'il faut aller chercher évidemment une petite torche, passer avec les rats, ramasser les petits machins, et ensuite ah oui c'est vrai je dois aller sauver Hugo, tu vois, c'est vrai il y a la musique un peu, les violoncelles, donc ça c'est le côté peut-être où il y a peu, alors je l'explique pas complètement, hein, mais il y a peut-être eu un côté systématique du level design où la personne s'est dit ah tiens là ça irait bien, tu vois, mais en fait d'un côté narratif ça marche pas du tout, c'est vraiment le soufflet, tu vois, qui est retombé. Je reproche pas à tout le jeu d'avoir fait que ça, mais là cette scène là en particulier, c'est dommage, il y avait peut-être moyen de faire un peu mieux.
Et c'est là que tu sens qu'il y a vraiment en fait une prise de conscience, alors au niveau du studio, vu que c'est leur premier jeu dans ce délire là, je pense qu'ils ont appris énormément, tu vois, tout au long du développement pour arriver à ce résultat là, mais il y a aussi une prise de conscience dans le jeu vidéo global que, comme tu le dis, on peut en fait enlever du gameplay, et c'est pas si grave que ça, tu vois, c'est pas si grave si on n'a pas forcément des puzzles. Est-ce qu'on aurait pu faire le jeu sans les collectibles? Oui, complètement, tu vois, on en a même pas parlé. Tu récupères des petits objets qui ont effectivement un cadre historique avec une petite explication, tu vas trouver un boulier, tu vas trouver des instruments un peu de géomètre, d'alchimiste, des trucs. Ça ajoute rien.
C'est ce que t'as mis dans le truc, c'est un peu le bingo. Tu dis,
il faut la table de craft, il faut les collectibles,
2020,
il faut des succès.
En fait, pour votre proposition finalement très narrative, vous n'en avez pas besoin de faire ça.
Mais
tu vois.
Mais ça c'est très difficile à admettre parce que je pense que tu vois quand t'es créateur et que tu te dis on fait des jeux vidéo et là on te dit t'oublies le gameplay. C'est là genre what. Enfin tu vois, il y a une espèce de vraiment de peur en tant que créateur où tu te dis il faut qu'on lâche la bride, il faut qu'on brise l'armure et qu'on arrive à proposer ça. Et malgré tout, ils ont réussi à trouver ce point d'équilibre entre
ils ont quand même un bon équilibre.
Un bon équilibre de narration avec des moments émouvants. Il y en a plein d'autres. Enfin, tu vois, il y a des séquences en termes de visuel. Le moment où tu arrives devant la chambre de Hugo, quand tu reviens justement à la maison de Rune, où tu vois justement le creep qui s'est fait, il y a une sorte de tourbillon qui est parti de la porte. Et quand tu rentres, il n'y a plus rien. Ça, c'est des moments comme ça, ça fonctionne à fond. Mais c'est vrai que c'est des tout petits, tu vois, c'est des petits trucs ponctuels, c'est des espèces de petites bulles au milieu d'une rivière qui coule vraiment de manière prévisible. Quoi.
Mais en fait, il faut de la confiance, je pense, aussi pour savoir se passer du gameplay. Tu vois, faut vraiment avoir cette espèce d'assise. Pour moi, Naughty Dog, ils l'ont aujourd'hui, et je pense que avec ce premier essai, tu vois, c'est un essai. Il faut calculer des trucs, faut essayer d'arriver à la bonne recette. Mais je suis sûr que s'ils refont une suite, ce sera. Enfin, j'ose espérer que justement, ils auront plus confiance en leur capacité à simplement nous porter entre la narration. Enfin, tu vois, même l'intro, tu vois, c'est un moment vraiment de contemplation et ça marche super bien parce que on fait pas tant de jeux que ça, quoi.
Et c'est pas grave en fait.
On caresse le simplement... chien. Ouais, c'est ça qu'on aime.
Mais non, mais finalement, en fait, le simple fait de se déplacer, à partir du moment où tu re-rentres dans des logiques de pur jeu vidéo à base de épreuves. vérification de tes connaissances et à la fin on te valide. Comme tu le dis, il y a ce côté scolaire. C'est le bon terme en fait, je pense, qui décrit un peu Plague Tale. C'est, il y a ce côté, on t'a appris une règle, voici les trois exercices, bravo, voici ta note, voici un pins. Et en fait, ben, dans la logique du jeu, à partir du moment où tu as des intentions narratives, alors c'est souvent, tu vois, il y a cette fameuse discussion entre les narrations, les gameplay, etc. Mais ce qu'on a vu ces dernières années dans le jeu vidéo, c'est qu'on arrive à faire converger les deux. Ils ont touché du doigt le truc. Vraiment, il y a des moments où je me suis dit, ils ont touché du doigt quelque chose avec ce jeu-là. Et ben, ce que j'espère, c'est qu'effectivement, ils vont pouvoir confirmer l'essai dans une suite. Alors évidemment, vu que le jeu il s'appelle Plague Tale 2. Quelque chose, bon, hein,
ouais, puis même
plus la fin, etc.
Quand le jeu se termine, au même titre que The Last of Us, voilà, on se dit que ces personnages-là, il y a encore des choses qui vont
encore
leur arriver.
Encore Last of Us, tu vois, le premier, ça aurait pu se terminer là. Oh,
bah, le truc, c'est comme il y a un twist.
Par contre,
à
la fin, attention.
Oui, on vous renvoie.
Mais écoutez, cette excellente émission, fin du game, disponible dans toutes les bonnes crèmeries.
C'était un des premiers en plus.
C'était l'épisode 4 de Fiou, je crois. Donc, c'était il y a quelques temps, souvenez-vous.
Non, mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que c'est vraiment ça, ce jeu. Moi, je trouve que c'est une vraie réussite. Déjà, on l'a dit, et je pense qu'il faut vraiment insister dessus pour le peu de gens qui ont travaillé dessus. C'est une vraie réussite technique, mais c'est aussi vraiment une réussite vraiment ludique. Et puis moi je trouve que c'est intelligent de faire un The Last of Us finalement, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. The Last of Us, moi je connais une chaîne qui a sorti une espèce d'émission sur le formatage des AAA, et voilà, c'est pas de l'open world, c'est pas de l'action RPG, il y a des tout petits éléments, mais on n'est pas du tout dans un open world, on est dans du Last of Us. Et The Last of Us, bah aujourd'hui c'est bien pas tant que ça finalement, des jeux comme ça. Et je pense que c'est malin, même en termes, tu vois, vraiment de positionnement sur le marché, je trouve que c'est malin de faire ça. Et je comprends que Focus leur a donné le feu vert, parce que c'est logique.
Oui, et on rappelle de toute façon que atteindre justement cet équilibre et ce rythme Last of Us, c'est quelque chose de très compliqué. Tu mets un petit peu trop d'action, tu mets un petit peu trop de narration, tu mets un petit peu trop d'infiltration, et tout de suite c'est la merde, tu vois. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce côté un petit peu scolaire, c'est qu'ils ont trouvé leur petite formule où on disait tu sens qu'il y a un peu un minuteur, tu vois, c'est à partir de tant de jeux que ça, hop, on rajoute une petite feature de gameplay, là ça va être de l'infiltration, là ça va être des rats, là ça va être machin, et c'est quand même très dur à trouver. Et là il manque justement, comme tu l'as déjà dit, il manque justement les petits coups de folie qui te font oublier un petit peu toute cette structure et qui disent ah ça c'était bien, et entre les deux c'était bien aussi, mais j'étais un peu plus, c'est un peu plus.
Mais comme t'as eu des moments vraiment très très forts, tu retiens ça, et après
c'est
cette différence qui fait rentrer les jeux, tu vois, dans les très grands jeux, après dans les machins
bah,
vraiment qui te marquent à vie, quoi.
Oublier en fait les défauts, tes reproches, et tu dis ouais, il y avait ça en fait, vous avez, moi c'est souvent, tu sais, dans certains jeux où je dis bah c'est bon, le jeu il a gagné mon cœur, tu vois, c'est bon, tu vois, il m'a fait vivre
un truc, et
c'est
bon,
tu vois. Après si tu m'en remets 2-3 comme ça, c'est bon, t'as gagné, tu vois, je serais gentil avec toi jusqu'au bout. Dans Plague Tale, il manque peut-être un petit peu ça, mais voilà, je pense qu'ils avaient besoin de trouver leur confiance, leur rythme, parce que c'est pas facile malgré tout de se lancer dans une aventure.
Ouais, je sais pas si on l'a dit en fait, je crois pas qu'on l'ait dit au début de l'émission, mais on l'a beaucoup comparé à The Last of Us, c'est très positif en fait, tu vois.
Ouais,
quand
oui,
je le
vraiment,
dis,
non,
c'est-à-dire
oui,
que
c'est pas
une critique en disant oh là là, les méchants ils ont fait du plagiat ni quoi que ce soit. Non, non, parce que c'est pas n'importe qui est capable de copier The Last of Us. Enfin, Naughty Dog, si on les met aussi en avant aujourd'hui, et si The Last of Us 2, ça fait partie des jeux les plus attendus de l'année, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on sait qu'ils vont encore une fois probablement nous soulever les tripes. Donc réussir à les imiter, c'est déjà quelque chose de notable, mais en plus réussir à toucher du doigt cette espèce de, tu vois, de personnalité, d'identité qui pourrait devenir une marque de fabrique auprès d'Asobo, bah putain, chapeau. Enfin, tu vois, moi je me souviens qu'à la fin de mon test en vidéo, je me suis dit, là ils ont réussi à se mettre sur la scène, maintenant les gens ils vont savoir qui c'est, ben c'est pas rien, quoi.
Non,
tu vois, je veux dire,
clair,
on est passé d'un studio qui faisait des jeux Ratatouille et des jeux Pixar et des jeux Kinect à maintenant on a fait Plague Tale, on a notre identité, on a notre univers, et nous aussi on a envie de vous montrer ce qu'on sait faire, quoi. Et ça, rien que là-dessus, je me dis chapeau, quoi. C'est quand même une belle réussite de la part du studio de réussir à faire ça dès le premier essai, avec une petite équipe, avec un budget relativement modeste, et avec un pari qui n'était pas évident, de dire on va faire un jeu et qu'on va jouer des enfants, ça va se passer au Moyen-Âge en France, enfin en termes de liste, tu vois, de checklist, c'était pas le truc le plus garanti, tu vois. Je pense que s'ils avaient dit on va faire un roguelite avec de l'action RPG, de la fantasy et des gros monstres, je pense qu'ils auraient plus, tu vois, ils cochaient plus de cases au niveau du bingo, quoi. Et donc avec tout ça, finalement, même si il y a des reproches qu'on peut faire, par exemple sur le principe de l'organisation ou qui sont les gens derrière les Pégases, etc., finalement, ça me choque pas en fait que ce jeu-là il soit autant célébré pour sa réussite technique, d'une part, sa réussite parce qu'il a eu, je crois, le meilleur univers, il a eu la musique également, il a eu le meilleur jeu tout court.
Oui, le meilleur jeu, ouais.
Donc, voilà, c'est quand même, tu vois, une reconnaissance vraiment de tous les efforts qu'on fait ce studio-là pour briser l'armure, tu vois. Je pense que c'est vraiment ça le ce que je retiens un petit peu de ce jeu-là, de se dire ben c'est des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont là, ils ont jamais encore pris de gros risques entre guillemets d'un point de vue créatif, d'un point de vue artistique. C'est des gens qui sont tu le sens quand tu vois le rendu du jeu, tu vois que c'est des gens, ils sont plutôt sur la partie technique, tu vois. C'est genre ben, nous on va faire Flight Simulator tu vois, on va faire des jeux avec des nuages dans le cloud et les tous les aéroports de l'univers, etc. Ils y seront dans notre jeu, etc. C'est pas des jeux avec une âme ou quoi que ce soit. Je dis pas que c'est pas bien Flight Simulator, mais ça s'appelle Simulator, quoi, tu vois.
Non,
c'est,
ah oui, c'est pas...
T'as pas des intentions comme ça, d'esthétique, d'artistique, d'émotion, de tout. Et ils se sont dit, bah, nous, on va prendre le risque, on va essayer de le faire. Il y a pas mal de studios qui ont essayé de faire des jeux un peu narratifs, tu vois, des jeux à la Journey, des jeux à la machin, etc. Là, ils ont réussi à toucher du doigt à la fois leur modèle et à la fois, je trouve, ce qu'ils avaient envie de faire eux-mêmes et voilà, de trouver, comme je te dis, cette espèce de petite patte qui est la leur, quoi.
Puis il y a une demande, de toute façon, pour cette typologie de jeu là, narratif, un peu plus accessible. Donc voilà, moi, je trouve vraiment que c'est une réussite à la fois sur le plan ludique, même si je trouve que c'est assez convenu, je trouve que ça marche bien, et en plus le jeu est quand même vraiment sauvé par son identité moyenâgeuse comme ça, et en plus voilà, vraiment en termes de marché, moi je trouve ça intelligent, quoi. Je trouve que c'est intelligent les choix qu'ils ont fait, et ils ont réussi à le faire, et voilà, c'est déjà pas mal. Et je pense que ce qui est cool aussi, c'est que dans Fin du Game, on parle pas trop de cette petite de ce petit segment de marché. On parle souvent des gros jeux, hein, les gros AAA qui ont fédéré énormément de monde. On parle aussi de gros indés qui arrivent parfois à toucher le million et même qui se vendent plus que A Plague Tale, hein. Mais c'est intéressant de s'intéresser à cette typologie de jeu-là qui a peut-être moins de prétentions, mais qui pourtant a quand même des ambitions et de nous faire vivre des trucs et qui arrive, quoi.
Parce qu'en plus, vraiment le segment du double A, enfin, on en parlait pendant la préparation, un petit jeu dont vous avez entendu parler qui est un bon exemple de double A, c'est Dark Souls. Tu vois, c'était un jeu de niche qui n'avait pas des grosses ambitions, qui n'avait pas vraiment un budget énorme ni quoi que ce soit. C'était pas non plus un jeu indé, c'est-à-dire qu'ils avaient quand même envie de toucher un certain public, et finalement ça a rayonné dans tout le jeu vidéo depuis une dizaine d'années. Donc en fait le AA, il a aussi son rôle à jouer, et je trouve ça super cool qu'on arrive. Alors évidemment il y a le côté chauvin, j'assume complètement le côté que ça soit un studio français, ça me fait super plaisir, mais ils ont vraiment, tous ces studios là, tous ces gens qui veulent faire des jeux avec des ambitions peut-être un peu moindres, ils ont quand même quelque chose à apporter, parce qu'ils ont justement peut-être une plus grande liberté. Ils ont pas la pression financière d'un God of War, d'un The Last of Us, d'un The Witcher, etc. Et encore, The Witcher, c'est un peu particulier, mais ils peuvent se permettre de prendre d'autres risques, et j'ai envie justement qu'ils puissent aller là-dedans, quoi. Tu vois, moi, si je leur souhaitais quelque chose pour la suite, c'est vraiment ça, c'est genre, allez-y à fond. Vous avez réussi à créer votre univers.
Vraiment, voilà.
Lâchez-vous.
Jouer dessus et.
Faut prendre des risques, tu vois. Faut réussir à se dire, il faut essayer. Peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas, mais ça va permettre d'éviter ce côté très scolaire qui est cool, mais. Il manque ce petit truc, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on parle de jeu.
L'univers maintenant est installé. Hugo, il est en pleine possession de son pouvoir. On se dit que, on peut faire des trucs foufou, quoi. Ils ont tenté un peu des choses avec le boss final. Voilà, on savait pas trop comment se positionner, mais voilà, ils peuvent aller loin et surtout faire des séquences un peu d'anthologie, tu vois. C'est ça finalement qu'on leur demanderait, c'est d'avoir des séquences d'anthologie, des grands moments qui nous marquent, comme ce moment dans ce champ de bataille. Et c'est pas pour rien qu'ils l'ont montré dans leur trailer et dans leurs images du jeu, parce que ils savaient, je pense, en interne, qu'ils avaient touché du doigt quelque chose qui était fort et qu'ils avaient réussi à j'arrive pas à trouver le mot en français, tu sais, à pull out, tu sais, à réaliser ce truc là et ça, quand on touche ce genre de réussite, il faut aller les chercher, c'est ce genre de truc, il faut aller prendre des risques, comme tu dis, aller, voilà,
mais par contre voilà, arriver à faire ça, et c'est un truc sur lequel moi j'avais envie d'insister dans la fin de l'épisode, c'est tout sauf facile, tu vois. Je veux dire, on a tous cet avis des fois un peu facile à l'emporte-pièce de dire on aurait pu faire ci, moi si j'avais été le gouvernement, etc. C'est tellement compliqué d'arriver à ce stade-là, tu vois, il y a tellement de... Parce que quand tu crées un jeu, tu sais pas comment ça va fonctionner. Oui, il y a des playtests, oui, il y a des trucs comme ça, mais tu sais pas la réception, comment elle va être, comment les gens, ils vont réagir réellement à ton truc, et du coup, il y a une espèce de... T'es tout le temps face au vide, et tu sais pas vraiment dans quelle direction aller, donc ils ont... Tu vois, tu sens vraiment la maîtrise du studio, tu sens l'expérience du... On va rester scolaire parce qu'on sait que ça va marcher, on va bien maîtriser le truc. Il faut juste faire le petit pas de plus et vous jeter dans le vide, et à mon avis, là, il pourrait, j'espère en tout cas, se passer quelque chose de très bien.
Exactement, et très bien, je crois, messieurs, qu'on a fait le tour. Voilà, c'est une bonne réussite, et puis aussi pour Focus Home, hein, je le disais en intro, je pense que c'est important pour un éditeur comme ça d'avancer des marques et de s'associer à des jeux qui commencent à compter, qui ont leur petit cœur, leur petit fan, les amateurs, et c'est important d'arriver à créer ça. Donc voilà, je pense qu'on en entendra encore parler d'Asobo. Au début de l'épisode, je disais on les connaît pas trop, je pense qu'on va ils rentrent maintenant avec A Plague Tale. cas, il rentre avec les Arcane, avec les Spiders, mais Quantic Dream, on peut aussi les citer, Dontnod aussi, évidemment.
Ouais, les gros studios français, voilà. Tu vois, maintenant, on va les mettre un petit peu dans le paysage, et je pense que c'était aussi ça un peu leur envie, parce que je disais, je pense qu'ils devaient se dire, c'est con, personne ne nous connaît, tu vois, tu parlais d'Asobo, et t'es là.
Ouais, et là, hier, avec les Pégases, de toute façon, c'est
un peu la consécration.
Voilà, et puis, on fait un épisode de fin du game dessus, alors voilà, c'est aussi la consécration.
Nous
ultime.
Appelons ça le hasard. clin d'œil.
Très bien, on remercie une nouvelle fois Third Edition, notre sponsor, pour leur confiance. N'hésitez pas à aller checker leurs bouquins sur leur site, il y a pas mal de choses. Est-ce qu'il reste encore quelques affiches, peut-être? Je ne suis pas sûr qu'il reste encore
Alors,
quelques affiches.
Alors, il me semble que c'était la fin, hein. L'affiche de cet excellent livre, ça s'appelle The Witcher, voilà.
Très bien. Peut-être qu'on va en entendre parler bientôt dans l'émission. Je ne sais pas.
Ah, incroyable.
C'est possible. Je ne sais pas.
Il paraît que tu y joues en plus en ce moment.
Il paraît que j'essaie, oui.
Ça va être un épisode, à mon avis, le jour où il arrivera peut-être. Ça sera très intéressant.
Et si vous voulez justement que ça arrive rapidement, eh bien soutenez-nous
sur Patreon.
N'oubliez pas d'aller checker notre petit Patreon.
Pensez à Hugo qui passe 80 heures d'à Novigrad.
S'il vous plaît, avec Geralt. Voilà, n'hésitez pas. On essaie vraiment d'atteindre ce nouveau palier pour vraiment nous garantir la viabilité de l'émission et du projet, donc c'est vraiment grâce à vous qu'on pourra le faire. Voilà, un petit café, un petit croissant. Là, Max, il nous a ramené les petits il a toussé, il est rentré comme ça et il a pris tout ce qu'il y avait. On vous embrasse, prenez soin de vous et puis on se retrouve dans 2 semaines si tout va bien pour un nouvel épisode de Fin du Game.
Salut.
Ciao.